11h32, quel beau lundi sous le soleil qu'on a. Profitons-en, parce que je pense que dans la nuit, de mercredi à jeudi, on nous annonce de la pluie comme pas possible. Fait que jeudi matin, ça devrait être une grosse patinoire, toute cette histoire-là. Donc, profitons du soleil pour aujourd'hui. Salut, mon nom c'est Marceau, son nom à elle c'est Pascal Séré. Salut.
Salut, bon lundi.
Passez un beau week-end.
Très beau week-end.
Ça a été reposant?
Ça a été presque reposant. Ça veut dire la moitié du week-end a été reposant.
OK.
On a joué au bingo Wendake vendredi. Finalement, ça a viré qu'une gang de filles ensemble chez une autre fille. Tout le monde repart en taxi.
Vous êtes allé jouer au bingo à Wendake?
C'est à la radio. Fait qu'on n'est pas allé à Wendake.
Ah, vous avez joué à radio.
Mais c'est le bingo. C'est le bingo de Wendake. Tu t'achètes tes cartes dans un des dépanneurs du côté de Wendake. Et où tu les achètes en ligne et tu les imprimes. Puis là, tu suis ça à radio. Hey, moi, j'avais le goût là, de leur dire, est-ce qu'une seule soirée, je peux animer le bingo, s'il te plaît?
Ah oh, ouais.
Gratuitement, bénévolement.
T'aimerais ça?
B2.
Je pense que, de mémoire, il y avait une télé locale, donc télé communautaire à Québec qui s'appelait Télémag, qui existe encore, pas du temps passant. Puis il y avait le bingo là, qui jouait une ou deux fois par semaine. Salut, Jeff.
Bingo du club Rotary sur Télémag.
C'est sûr que toi, tu jouais à ça, quoi?
Mais j'ai joué parce que ça encourageait les organismes communautaires. Okay. Je vais te donner un exemple. Le club Rotary de Charlebourg donne encore 25 000 $ par année au Patro Charlebourg pour l'aide alimentaire, puis ils prennent ça dans les revenus du bingo.
Fait que ça fonctionne encore pas pire, le bingo.
Oh oui!
Ah ben écoute, là, je veux dire, Yannick, je comprends pas comment est-ce qu'on avait 5 jeux, OK? Puis chacun des jeux avait minimalement 500$ comme prix.
Étiez-vous des filles toutes célibataires?
Non.
Non. Parce que vendredi, des filles qui...
Mais on est drôle.
Ils jouent bingo.
On est une gang de...
Ça va, les vieilles filles?
Non, on est une gang de clowns.
Oui, j'en doute pas.
On trouvait ça drôle,
nous autres. Mon Dieu, que ça devait être excitant.
Et on a ri beaucoup. Puis l'affaire, c'est que t'as pas le temps de parler. On s'est fait prendre, nous autres. On pensait que ça allait être du papotage entre nous autres.
Non, attelle-toi,
si tu veux pas manquer un numéro.
C'était du sérieux.
Ah ouais, j'ai déjà joué 3 fois. Chez mon ami Tommy, on se faisait des soirées de jeux de société, mais on commençait ça avec le bingo Wendake.
Hey, sérieux, par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une de nous qui a gagné. J'ai vraiment peur. J'ai eu peur. En passant, je fais pas l'accusation, vous comprenez que je fais une joke, que ça soit corrompu, là. Si on était 6, puis il y avait 5 jeux, le pourcentage des chances qu'on gagne un petit quelque chose était quand même élevé. Okay.
Bien sûrement. T'achètes tes cartous, hein?
Au dépanneur, comme je te disais, du côté de Wendake, ou en ligne et tu les imprimes.
Puis à Wendake, c'est le dépanneur à côté avec le petit sac dedans, là.
Oui, exactement.
C'est ma sac qui est là. C'est ma sac à moi. C'est le secret le mieux gardé de Québec. Oui. Là. Eux autres, là, à Wendake, avec la petite sac qui est juste à côté du dépanneur, c'est ouvert 16 jours sur 7 jusqu'à 22 heures le soir, là, de ce que je comprends pour ce qui est de l'alcool. Tu vas là, il n'y a jamais personne qui zigonne des pancartes, solidarité. Tu arrives là, tu prends ta bouteille, tu t'en vas avec ton bonheur à la maison, puis tu bois ton bonheur.
Imagine, tu pourrais ajouter à ça une carte de bingo. Cependant, c'est 18 ans et plus, mais c'est tellement le fun. Là. Tu es à radio, puis là, entre, tu sais, quand ça appelle, ça veut dire qu'il y a un gagnant qui appelle à la radio.
T'es entendu?
Je mets ça sur pause. Puis là, t'as du gros ACDC ou même en attendant. Puis après ça, ils mettent le monde gagnant en onde. Salut! Alors, nous avons une gagnante, Suzanne. Puis là, c'est pas tant animé même. Là, mais
Suzanne.
Puis là, Suzanne, elle répond. Hey, salut, je peux-tu faire des salutations? Fait qu'elle dit, je veux juste saluer la gang à Marco Tremblay. Ils vont se reconnaître. c'est du divertissement.
OK, mais ça, tu m'enregistres ça, là?
Mais je pourrais pas. Mais faudrait que je rejoue. Ça veut dire faudrait que je reconvive toute ma gang de filles bientôt.
Oui,
mais
ben, oui, visiblement, vous avez pas grand-chose à faire. Là. C'est une gang de filles dans la trentaine, un vendredi soir.
Attends que je te peigne sur le mur, toute chose. Hey. C'était notre souper de Noël, puis c'est ça. On a pris un petit apéro de Noël. Après ça, on a joué du bingo. On s'est fait un beau souper.
Quelle belle soirée.
Puis on a ouvert des bouteilles, on a dansé.
T'avais-tu acheté le marqueur?
Vous avez dansé 5 filles dans un appartement un vendredi soir?
On était 6 dans une maison un vendredi soir avec quelques bouteilles ouvertes. On est tous repartis en taxi. On aurait pu prendre les rouges en passant, c'était en fonction.
Vous êtes allé vous coucher après?
Mais il était tard, c'était le temps. C'était le temps d'aller coucher bonne
femme. Ça dure longtemps, le bingo one day.
C'était le temps d'aller coucher bonne femme. Mais au moins une heure, jouer 5 jeux.
Oui,
puis on avait les tentes.
Hey, enregistre-moi ça. On va faire jouer
Yannick,
des extraits.
Je voudrais vraiment qu'il m'engage une soirée bénévolement pour l'animer. J'ai un nouveau fantasme. Animer une seule soirée de bingo Wendake.
Ouais. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, ce monde-là. Je me souviens d'un Gilles Parent dans le temps qui faisait jouer une station de radio. Je pense que c'était dans le secteur de la Gaspésie.
Oh oui, avec l'affaire de chasse.
Les gars de chasse! Salutations à Francine qui est dans le district 27!
Je comprends pas. Aidez-moi.
On t'aime, Francine, ta bouteille de vin. Ah, c'était malade.
Je comprends pas.
Il faisait une ligne ouverte.
Okay. C'est dans mon chac.
Dans mon chac. Puis là, les chasseurs appelaient pour dire « Je viens d'empoigner un gros gibier. »
Oui. Me niaiser.
Ah, non.
C'est dans mon chac. Le gars répondait au téléphone. « Dans mon chac, bonsoir. »
Oui, on voulait
non.
Ça. J'adore ça. En passant, moi, je dans des fois, mon j'enregistre chaque... des radios communautaires pour, mettons, on est là. À... Non, je peux pas donner cette munition.
Bonsoir.
Là. Laissez faire.
Dans laissez mon faire. Chaque... Je... Hey, là, tu me rappelles des souvenirs d'auditeurs de radio crampés dans
ça, c'était dans le bas du fleuve. Laissez dans mon chat.
Ouais, c'était à Gaspésie.
Là, on est en octobre 2016.
Ouais,
okay.
Un peu, là. On va essayer de voir.
Cowboy et Foxy désirent souhaiter un good félicitations. Je le lis textuellement, OK? Cowboy et Foxy désirent souhaiter un goût de félicitations à tous et à everybody for the female non. Et les gros bacs abattus.
Non.
La chasse est spéciale dans le 1, dans le en Gaspé. Merci le, pour le goût d'émission In My Shack and for your good job.
Pourquoi il parle en
continue
franglais?
Continue to play good country music. Foxy aimerait une chanson de Chris Stapleton. Stapleton. Thank you and good night.
Stapleton!
Alors ça, là, j'écoutais ça, là.
C'est donc ben bon.
Oh non, c'est malade.
Puis c'était juste des salutations en ondes.
Oh oui. Oh
ben
oui.
Voyons, je suis bien fan.
Ah oui.
Quelqu'un qui dit un de mes chums est allé pour jouer là, pour le fun au bingo. Mais pourquoi je dis ça? Avec sa blonde, ils ont gagné 16 250. Non, mais c'est pas une farce. Des fois, le gros lot est de 66 000.
Hey, pendant la pandémie, à un moment donné, le gros lot était au-dessus de 100 000. Parce qu'il y avait plein de monde qui jouait à ça.
À
moi, je jouais avec Elliot et Edouard au.
Mais c'était oui, malade. C'était en radio, pas de contact. Ben oui. Après, c'est pas juste
radio,
compris.
Pas de contact. Bon, on dit que c'est plate.
À Sept-Îles, à un moment donné, j'ai joué là, au bingo du type Wendake, qui est chez ma sœur. Il y avait des quatre roues. Il y avait des skidoo comme prix.
À faire gagner, malade.
Ils font tellement d'argent avec ça. Ça, hey. Ça n'a... J'adore le Club Rotary, par exemple, le fait qu'il y a une partie
ouais, ouais, ouais.
Ah, non, il est encore dans son...
Cowboy et Foxy désirent souhaiter un good félicitations. Je le lis textuellement, OK? Cowboy et Foxy désirent souhaiter un good félicitations à tous et à everybody for the female et les gros bacs abattus. La chasse est spéciale dans le 1, dans le en Gaspé. Merci pour le goût d'émission In My Shack and for your good job.
Exact.
Continue to play good country music. Foxy aimerait une chanson de Chris Stapleton. Stapleton. Thank you and good night.
Peux-tu m'envoyer ça, Yannick?
Non, j'adore ça.
Oui, tu m'envoies ça.
C'est à moi.
Good job. Good
non, mais je veux que ça soit à la vie à la mort dans ma vie. Là.
Good job.
Ah, que j'adore.
Est-ce que ça s'appelle Foxy, la fille, ça, j'ai compris?
Je pense que oui.
C'est son nom de radio?
Ouais.
Bon, appelez-moi Foxy à partir de maintenant.
Foxy.
Foxy Pacey.
Oh my God. Oh,
bye-bye.
Belle semaine.
Hey, un bijou.
Ouais. Sinon, vous avez passé un beau week-end?
Oui.
Ah, vraiment? J'allais deux fois au marché allemand de Noël, moi.
Deux fois.
Moi, je suis allé vendredi soir avec ma douce, puis dimanche en famille. Okay. C'était vraiment le fun.
Mais une fois, c'était pas suffisant?
Ah, il y a pas de faire déguster.
OK, c'est ça, tu vas là pour manger.
Toi, t'as goûté et regoûté.
C'est où exactement?
Il y a Place Yoville, Jardin de l'Hôtel de Ville, un kiosque à côté du Jardin de l'Hôtel de Ville aussi.
À côté
puis,
de la
patinoire. À côté de la patinoire. Ah,
OK, c'est
très cool. Non, c'est super cool, franchement. Très, très, très
ton plaisant. Ton cœur?
C'est le pain avec du fromage suisse fondu à l'intérieur.
Ouais. Oh, le pain avec du fromage suisse
ça
fondu.
Rock,
ouais, à l'intérieur, ils te mettent ça dedans.
T'aimais ça? Faut-tu que tu payes?
Ouais, 6 pièces.
Ben non, c'est pas gratuit. C'est
mais j'ai bu du... Je buvais toujours du vin chaud rouge. Là, j'ai bu du vin chaud blanc. Et j'ai trouvé ça meilleur.
Oh, ouais.
Plus doux, moins sucré.
J'ai jamais essayé ça. Jamais essayé ça.
Toi, t'as pas la frénésie de Noël qui s'empare de toi tranquillement?
Ben oui, j'écoutais Elvis Presley toute la fin de semaine.
Non, mais c'est parce que ça, c'est ton quotidien.
Oui.
C'est
pas grave, là, c'est Elvis de Noël que j'écoute.
Ouais, est-ce que ton sapin est fait?
C'est cool. Mon sapin, il est fait. En fait, je l'ai sorti du cabanon, puis il était déjà fait. Parce que je l'avais rangé fait, donc ça n'a pas été long, non?
C'est d'une triste...
Mais c'est pas un sapin, par exemple, c'est vraiment un genre d'arbre blanc. Là.
C'est d'une triste...
C'est d'une beauté incroyable. Puis vendredi, j'ai été faire un tour au Archibald de Sainte-Foy. J'ai rencontré des auditeurs, une gang de gars. Je les salue d'ailleurs, parce que je sais qui nous écoutent, là, puis ils étaient très intéressés par nos sondages.
Ils étaient dans le chat?
Écoute, il était entre 40 et 60 gars. Puis tu sais, des gars d'Hydro-Québec, là, les monteurs de ligne, là. Ils n'ont pas des têtes de comptable.
C'est tellement chiant.
Tu sais que les gars font pas du bureau. Là. Ils te serrent la main, puis tu as l'impression que c'est des hommes, ça.
Oui.
Là, c'est... Avec une carrure, puis tout, ils sont en train de prendre un verre, puis c'est à leur party de Noël, puis ils vous font dire un beau bonjour. Parler à 4-5, puis c'est ça, ils parlaient de la station.
Une gang de bottes dans le chat.
Ils ont demandé, Pascal est comment, Audrey est comment.
Ils ont demandé comment on était,
je vous ai décrit.
Moi, je salue Steve, un auditeur fidèle au métro à Beauport, qui est passé à côté de nous, qui m'a dit « Lâche-le pas, l'RTC! » c'est Jeff.
Fait qu'on vous salue, la gang d'Hydro-Québec. C'était belle fun de vous rencontrer. Hey, on s'attendait pas à une victoire samedi. Quoique les deux premières périodes étaient quand même pas si pires pour ce qui est du Canadien qui affrontait Washington. Alex Ovechkin qui était pas là. J'aurais aimé une meilleure performance en troisième, mais finalement, ça n'a pas été suffisant. Défaite de 4-2 contre les Washington samedi. C'était pas une super de belle période.
Non, non, non. Puis vraiment, les Capitals sont étonnants. Ils avaient battu les Maple Leafs de Toronto la veille. Et là, ils sont au premier rang de la Ligue nationale à égalité, justement, là, avec Winnipeg, entre autres. Donc, ça va excessivement bien pour eux. Et Tom Wilson, quel guerrier. La face
à T'as-tu vu la face à Tom Wilson?
Non.
Non. Tape...
Face Tom.
Tom Wilson, actualité. Tu vas voir sa face, là. Le gars, il a mangé la rondelle en pleine poire sur le bord de la mâchoire. Il y avait comme une deuxième tête.
Ben là, j'aime moins le titre, là. Tom Wilson saigne abondamment. Je vais-tu perdre connaissance?
Ouais, non, ben,
il y avait comme une deuxième tête à l'horizontale sur le bord de sa mâchoire. Puis il a joué son match au grand complet.
J'ai un peu peur.
Les joueurs de hockey, c'est des guerriers.
Ah, oh, c'est des guerriers. Les gars vont à la guerre. T'sais, on en parlait tantôt hors d'onde. Quand tu patines à cette vitesse-là puis que tu viens en contact, surtout avec un bonhomme comme Tom Wilson, c'est le Wild du Minnesota également qui a 40 points au classement.
Hey, mon Dieu, en alors, une balle de golf dans
franchement,
la
tout va bien pour les Caps. Puis, je pense que c'est cette confiance-là qui les a amenés à réussir à remonter la pente. Et même si le Canadien était sur une séquence de 2 victoires, ça reste un club quand même assez fragile comparativement à Washington. Puis, c'est ce qui leur a permis là, d'aller chercher le gant en troisième
période. Wilson, as-tu perdu des dents?
Je ne sais pas s'il a perdu des dents, j'ai pas lu là-dessus.
Parce que c'est arrivé carrément à hauteur de la mâchoire. Il a fait son match au complet, mais tu sais.
En tout cas, il a gagné une joue.
Souvent, je m'estime avec les gars, là, ceux qui trippent sur le football. Je dis souvent que le hockey, c'est le sport le plus violent de la planète. Mm-hmm. Les jeunes nous disent non, non, mais le football, le rugby, ça se tape aussi, mais c'est pas à la même vitesse. Quand tu tombes au rugby, tu tombes à terre, tandis que quand tu tombes au hockey, là, après avoir fait une pirouette dans les airs, t'as la bande puis t'as la glace qui est
bande,
là.
La bande, t'as la glace. Ah, c'est tellement
les gars
physique,
vont pas mal plus vite sur patins qu'ils peuvent y aller à la course.
Oui, puis les gars, maintenant, avec l'équipement aussi qui est rigide, alors...
Pour la vitesse, je suis d'accord avec vous autres. Par contre, là où je mettrais une petite nuance au rugby, là, c'est le nombre de blessés versus le nombre de blessés au hockey annuellement. Ouais. Là. C'est des grosses blessures. Là. Souvent, c'est comme des fractures. Puis, t'as la balle de golf qui a poussé à la face dans le visage à Wilson en fin de semaine.
Ouais.
Mais souvent, c'est comme un genre de pied croche. Moi, j'ai eu des fémurs brisés. J'ai eu des péronées brisées au rugby.
Il y a tout ça au hockey.
Puis, c'est juste une ligue des petites filles. J'étais au secondaire. On était des petites filles à ce moment-là. C'était raide, là.
À un moment donné, il faisait la comparaison entre les joueurs de hockey et les joueurs de soccer. Première image, tu vois un joueur de soccer, quelqu'un qui il fait juste il flatter les cheveux, l'autre tombe à terre quasiment sans connaissance. Puis là, t'as l'équipe de soigneurs qui arrive, qui met un peu de spray-net dans les cheveux du gars de soccer, puis le gars se relève frais comme une rose. Puis sur l'autre image, tu vois Alex Ovechkin qui est au banc, qui reçoit une rondelle, carré ses dents. Il vérifie si sa dent est encore là. Puis ils rembarquent sur le jeu comme si de rien n'était.
C'est ça.
Ça, c'est parce que les joueurs de soccer veulent gagner du temps pour respirer à cause de leur cardio. C'est pas très, très, très crédible.
Non.
Ça me fait penser à Audrey quand la ballonne a éclaté dans le calendrier Sobab. Il dit « Oh, mon bras! » Puis il a éclaté sa cuisse.
Sinon, les Canadiens jouent quand? Ce soir?
Ce soir, contre les Ducks d'Anaheim qui ont accueilli Jacob Trouba dans leur alignement. Donc, Trouba, ça sera son premier match avec les Ducks ce soir.
Gouda, c'est là.
Hein? Goudas est là. Non, c'est
fait
physique.
Fait que t'as Goudas et Trouba qui sont là. Ils vont-ils faire jouer ensemble?
Je croirais pas parce que les Ducks sont une jeune défensive.
C'est quand tu dis « keep the head up », les gars. Là. Quand ils vont se ramasser à la défense, c'est sûr que les gars vont y ramasser.
Non, puis j'ai aimé voir les Ducks faire cette transaction-là parce que ça fait plusieurs saisons là, qu'on est dans les bas-fonds. Puis on en parle beaucoup avec les Canadiens qu'il faut créer une culture gagnante. Les Ducks, visiblement, ne l'ont pas fait dans les dernières années. Alors là, d'avoir un gars comme Trouba, qui était capitaine des Rangers, qui a vécu quand même de bons passage en série, c'est certain que ça va aider les jeunes joueurs. T'sais, on a une jeune défensive là, là-bas là, du côté des Ducks, tous des défenseurs qui proviennent justement de la Ligue canadienne de hockey. Je pense à Pavel Minchukov qui a 6 points en 22 matchs. Il y a également celui qu'on avait vu là, avec Seattle dans la Coupe Memorial contre les remparts. Olin Zellinger qui fait très bien avec 10 points en 24 matchs. C'est un défenseur qui peut jouer sur l'avantage numérique. Alors un Trouba venir encadrer justement les jeunes joueurs comme Cutter Gauthier, Leo Carlson à l'attaque. Très belle transaction pour les Ducks. Il y avait la marge de manœuvre sur le plafond salarial avec 8 millions. Puis de toute façon, il devrait échanger normalement John Gibson là, qui vaut 6,4 millions sur le sur la masse là, devrait l'échanger là, en cours de saison.
Sinon, il y a deux autres matchs ce soir, les Blackhawks contre les Rangers puis les Red Wings contre les Sabres. Ça commence à 19h. Ligue de hockey maritime du Québec, junior maritime du Québec. Deux grosses victoires des Remparts.
Hey, ça va tellement bien pour les Remparts. Deux grosses victoires à Baie-Comeau contre une des meilleures formations du circuit. Donc, je suis vraiment content pour les Remparts de Québec. Puis d'ailleurs, Simon Gagné disait en fin de semaine, on ne sera pas dans les vendeurs, on va être dans les acheteurs. Même si avant les deux matchs contre le Drakkar de Baie-Comeau, les Remparts se retrouvaient au 15e rang de la Ligue, donc à l'extérieur des séries. Simon Gagné a dit, il n'est pas question qu'on ait une autre saison à l'extérieur des séries éliminatoires. Il faut que mes jeunes apprennent en gagnant des matchs. Et puis d'ailleurs, parlant de jeunes, le jeune Alex Taillefer, le défenseur qui s'est présenté avec les Remparts là, dernièrement, a marqué son premier but de la saison en première période du deuxième match. Donc, deux très belles victoires pour les Remparts de Québec. Dominé 45-18 dans les tirs au but lors du match de samedi.
45-18,
mais Louis-Antoine Deneau a fait le travail. Il avait besoin de ce type de performance-là, Deneau, alors ça va être positif pour lui.
Ça, je veux dire, tu finis ton match, tu pues le caoutchouc.
Hey, c'est clair que tu pues le caoutchouc.
Sinon, les Chiefs ont encore trouvé le moyen de gagner hier.
Ouais,
Pascal.
Les Chiefs, encore. Hein?
19-17 écoute, contre les Chargers.
C'est un beau match pour les Chargers, par exemple. Ouais. C'est surprenant.
Je me suis couché à la demi, puis c'était 13-0 Chiefs. Et là, je me suis dit, bon, les Chiefs vont enfin gagner une facilité. Parce que là, les Chargers, on avait plusieurs blessés. Justin Herbert venait de se blesser, en plus le carrière à une cheville. Les Chiefs vont gagner une facile. Ben non, ça a pris un botté de placement de 31 verges en fin de match. L'as-tu vu qu'il a frappé le poteau,
ouais.
Qui est revenu à l'intérieur. Donc, quand tout te sourit, c'est en plein ça. Alors, 12-1 pour les Chiefs de Kansas City présentement, sans jouer leur meilleur football. Mention spéciale à Travis Kelce, qui est devenu seulement le troisième ailier rapproché de l'histoire de la NFL à atteindre le plateau des 12 000 verges en carrière à sa 12e saison. Donc, c'est une moyenne de 1000 verges et plus par saison. Très grosse carrière pour Kelce.
Sinon, les Cowboys contre les Bengals ce soir?
Oui, Cowboys-Bengals ce soir. Match, je vais le dire comme ça, là, un petit match surprenant parce que les Bengals ont une offensive extraordinaire. T'es Joe Burrow, 3337 verges de gain, 30 passes de toucher depuis le début de la saison. Jamar Chase, 1142 verges déjà de gain, 13 touchés, mais les Bengals accordent des points à la tonne. Et du côté des Cowboys, on vient de se replacer avec deux victoires face à Washington et les Giants. On est de retour d'un long repos avec le match qu'on avait disputé à l'Action de grâce le jeudi. Alors, bien hâte de voir ce que ça va donner. Parce que les Bengals se font tout simplement ouvrir défensivement. Ils ont donné 44 points à Pittsburgh, 34 aux Chargers, 35 aux Ravens, 37 aux Eagles. Et ça, c'est leur dernier match, là, donc ça va vraiment pas bien.
Parfait. Merci beaucoup, mon ami. Aujourd'hui, gros show. Denis Gravel s'en vient vers les alentours de midi. On va parler aussi vers 12h30 avec Mathieu Lavoie, qui est président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. À la grandeur du Québec, les agents correctionnels en ont plein le cul. Manque d'employés. Les gars sont de plus en plus violents à l'intérieur des murs. Des attaques sur les agents correctionnels. La violence qui n'en finit plus. Fait qu'on va jaser avec Mathieu. David Chabot va être là pour nous parler de ce qui se passe en série. Un changement de régime en série.
Et non, en série. En série, oui.
Bachar al-Assad qui est rendu à Moscou avec Poutine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais hier, je regardais des images. Il y a des gens qui se sont introduits dans le palais de Bachar al-Assad puis qui détruisaient les fameux tableaux, les photos de Bachar al-Assad. C'est incroyable, hein?
Oui.
C'est une libération pour eux, mais ben qu'est-ce qui va arriver après? Tu sais, quand le fou est parti, tu souhaites que quelqu'un d'autre prenne sa place, mais qu'il soit moins fou. Puis bien souvent, ben, tu peux avoir le contraire. Puis on était chanceux quand même avec Bachar al-Assad, parce que c'était pas lui qui était supposé être au pouvoir, c'était supposé être son frère. Puis son frère est mort dans un accident de voiture. Lui, il était à Londres à ce moment-là, il faisait son interne en médecine. Puis on lui a dit, ben, ton frère, il est décédé, fait que tu vas devoir revenir en Syrie. Et là, ils ont commencé sa formation. C'est un gars qui a attaqué son propre peuple pendant le printemps arabe en 2011. Il a tué plus de 500 000 personnes.
C'est fou.
500 000 des tiens.
Ouais.
Créer une guerre civile, il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est des grosses, grosses accusations, on s'entend, dans les, parmi les plus grosses dans le monde entier, puis dans le droit, tout simplement. Beaucoup de gens qui avaient fui en Libye, qui veulent revenir en Syrie, mais qui ne savent pas à quoi s'attendre officiellement, mais qui ont quitté leur famille depuis plusieurs années. Fait qu'il y a des familles qui vont se retrouver, mais dans quel contexte ils vont se retrouver? Puis ce qui est un petit peu ironique, c'est Bachar Al-Assad qui est rendu du côté de Moscou, comme tu as dit, qui est comme un réfugié de droits humains. Là. Là-bas, il est accueilli là, pour le protéger. C'est ce que dit Vladimir Poutine. C'est fascinant. Ironique et fascinant.
Ça se peut qu'il tombe dans le bas des marches là, dans les prochaines semaines. Là, un accident dans le bas des marches est si vite arrivé.
Ou tu tombes d'un troisième étage.
Ben oui.
Il regardait le coucher de soleil.
Il était sur sa galerie, prenait un petit verre. À un moment donné, Caroline, le ballon. Il a perdu le ballon puis il est tombé à terre.
En même temps, il y a des choses qui me disent que peut-être qu'ils vont bien s'entendre ensemble. Et l'autre chose que je me pose comme question ouverte sur laquelle je vous laisse réfléchir, c'est est-ce un geste lâche que de fuir à partir de ce moment-là pour Bachar Al-Assad, la Syrie?
On en jase tantôt, David Chabot qui sera là avec nous. Un gros merci d'être là. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. Merci, mon Jeff.
Ça fait plaisir.
Bye-bye. Salut. Marceau, le
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Précisément à midi, vous êtes dans le Pit Stop. Denis Gravel qui est en place, qui est là depuis les petites heures ce matin. Je l'ai croisé vers quoi, 7 heures à peu près?
Ça s'en vient-tu le temps des fêtes?
Ça s'en vient.
T'as...
Ça s'en vient.
Je suis brûlé. T'es fébrile.
Non.
T'es dans l'esprit de Noël.
Non plus, je suis juste brûlé. Ah, je suis fucking brûlé.
Mais voyons.
Je me demandais ce qui se passait. Il y avait un petit bonhomme qui était dans le secteur des bureaux où on travaille, boulevard, puis il avait les cheveux longs. Mes gars, ils ont les cheveux longs, les deux. Là.
Toi aussi,
c'est rendu la mode des cheveux longs. Isaac, ça finit plus. Là. Puis là,
mais long comment, Yannick? La coupe NHL, là, la back-off en arrière?
Ben, dans le cas de mon gars, je pense que c'est juste long.
C'est long comme ton toupette.
Ils ont essayé de faire quelque chose. Finalement, ça n'a pas fait. Puis ça donne cette tête-là. Là. Tu sais, tu prends une mop, là, tu le revires à l'envers.
Ah, oh, c'est la coupe Patrick Mahomes.
Ouais, peut-être. Non, ça, c'est mon plus vieux ça qui voulait justement, là, comme Jeff Fortin ici, là,
ouais. Une permanente. Sur le top.
Il voulait un soul glow.
Soul glow. Mais là, c'est ça. Toutes les jeunes sont rendus avec les cheveux longs.
Ah, c'est l'enfer. L'année passée, mon grand était le seul qui avait des cheveux longs dans son équipe de hockey. Là, ils sont rendus 4-5, je pense. J'étais obligé de regarder les numéros pour le reconnaître.
Non, mais c'est ça. Puis là, j'ai dit à mon plus jeune, là, pour Noël, maman va vouloir te couper les cheveux. Il dit, si elle me coupe les cheveux, je ne fais plus mes devoirs d'école.
Oh!
Lui, il est rendu à négocier des affaires et à débattre. Hein?
Ah, ils apprennent à manipuler très rapidement ces enfants-là. Là. Puis je ne sais pas à quelle école ils vont. Là. Je ne sais pas. Non, mais l'école de la manipulation.
Ça, c'est l'école de la vie, ça. La fameuse école de la vie.
La fameuse école de la vie. Mais ils ont tous les petits cheveux longs, fait que j'étais content de voir ton gars ce matin. Pascal nous apprend, Denis, qu'il existe une nouvelle clinique de ITS à Québec pour de la détection.
Disons, dépistage, oui.
Pour la détection.
C'est pas là que
moi,
tu
j'avais été chez Infirma. Ça m'avait coûté à peu près 200$
de
mémoire
privé, infirmière.
Pour faire tout de A à Z. Ça avait pris 15 minutes. Tout était parfait. Mm-hmm. Puis j'étais très satisfait. J'ai appelé le vendredi. J'ai eu mon rendez-vous le samedi. Fait que, puis tout était beau. Il y a le malaise de « je vais te rentrer le kyotips là, prends un grand
C'est encore respect. Ça?
Moi, j'ai eu le total. Je ne savais pas que je pouvais juste demander comme... C'est comme si tu étais au comptoir là, chez McDo.
Oui, il me semble que j'ai fait des tests, puis il n'y a pas de kyotips.
C'est ça, il y a comme des combos, tout ça. Puis moi, j'ai fait l'erreur de dire au téléphone, moi, c'est tout.
OK, mais la totale, oui.
De A à Z.
C'est une erreur, Yannick, de vouloir juste tout dépister? Mais je me demande juste si le kyotips c'est encore dans le package deal.
Ben
de
moi, j'ai
tout
eu
dépister.
Le Q-tips dans le trou de pète. Là.
Dans le trou de pète?
Puis à tout jamais, je vais me souvenir de ce moment-là.
Oui, sauf qu'après, tu savais que tu étais propre ou pas. Ça t'appartient.
Voilà.
Oui, nouvelle clinique, ça fait 3 ans. Je suis sous le charme, je te dirais pas de faire ça. Je suis sous le charme que ça existe, surtout quand on entend parler de recrudescence d'ITSS, de syphilis, qui était une maladie autrefois du Moyen-Âge et qui est revenue. Moyen-Âge, je sais pas, mais de plusieurs années. Puis qui est comme revenue. Moi, je rappelle, au secondaire, on faisait des exposés oraux comme quoi c'était une vieille maladie transmise sexuellement. Puis elle est là maintenant, elle est de retour. Ouais.
C'est une clinique privée ou publique?
C'est comme semi-public. Je t'explique pourquoi. Tu as le droit de payer 15 $ et là, ça va te prendre 2 semaines, ils envoient ça au public. Mais tu as le droit de payer le prix du privé, qui est environ $100 pour l'avoir en 2-3 jours, ton résultat.
Toi, tu as pris lequel?
Moi, j'ai pris 2 semaines, j'ai rien. Okay. J'ai pas de... C'est parce que quand je suis célibataire, je le fais aux 3 mois. Ça a toujours été ça, mais j'ai pas été célibataire souvent. C'est juste que j'ai vraiment une maladie mentale sur le fait d'être propre, là. Ma santé sexuelle est quelque chose de très important dans ma vie.
C'est rassurant.
Pour moi, c'est sûr. Les autres me rassurent pas.
C'est ça qui arrive. Hein. Tu contrôles toujours juste une partie de l'équation.
Exact.
Hein?
Fait que je me dis, ben, je vais contrôler ma partie.
Tu demandes-tu un background? Tu demandes-tu une feuille
avant? Il y en a
qui
le font.
Oui, je sais, il y en a qui le font.
Il y en a qui le font.
Oh oui, t'as déjà fait demander ça?
Moi, non.
Okay. Moi, je me l'ai fait demander par ma blonde qui est infirmière. Elle dit, ben, si tu veux qu'on retire le cordon, c'est le temps d'aller faire tes tests.
Ouais. Avec les partenaires réguliers que j'ai eus, ça a été une demande...
OK, mais elle ne m'a pas demandé à feuille.
Mais il y en a qui se le demandent, puis c'est juste de couchaillage, là. C'est pas un couple. T'sais, mettons, moi, les couples que j'ai eus, j'ai fait cette demande-là.
Deux fois rendu en couple, c'est moi qui l'ai proposé, en fait.
Ah?
Ouais. Parce que Samson attendait au mariage, là.
Ah!
Non, c'est pas vrai.
Mais ça s'appelle Prélib. Je trouve que... C'est sûr qu'il y a eu une étude de marché en arrière
Prélib.
De ça. Prélib. P-R-E-L-I-B. C'est du côté de la pyramide. C'est des amis qui m'ont parlé de ça. C'est... Même pas quand tu entres dans la pyramide Sainte-Foy à la porte principale, tu t'en vas en arrière du côté du shaker. Ça me fait beaucoup rire en passant. Et puis, c'est une petite porte privée. Tu t'en vas t'inscrire. Si vous voulez avoir un rendez-vous, là, vous allez aujourd'hui sur le site Internet pour prendre un rendez-vous. Il y a la Clinique de Québec. Vous allez être capable d'avoir un rendez-vous demain. Je vous dis ça parce que j'ai conseillé à Max Larouche d'y aller.
Ça va vite.
Ceci est une autre histoire. Mais ça va très, très, très vite. C'est super efficace. En 20 minutes... C'est fait.
Ils vont... coûte combien?
15$.
15$.
Hey, c'est pas cher.
En deux semaines, pour le public, quand il y en a au public.
Ouais.
100$ si tu le veux en 2-3 jours. Fait que... Mais ils vont te demander de remplir un genre de formulaire quand tu veux t'inscrire, ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir quelques questions qui vont t'orienter sur ce que tu as besoin de te faire dépister. Puis la manière dont on va te le dépister, y a-tu prise de sang, qui ou type, peu importe. C'est super bien fait. En 20 minutes, moi, tout était fait. Puis j'avais mon rendez-vous, puis il a commencé à temps. Je suis... vraiment, vraiment charmé par cette clinique-là. Il y a des petites choses qui m'ont fait rire, par contre, dans le formulaire. Je trouve qu'on est rendu bien en 2024, là. Entre autres, dans les questions, il y a un moment donné on te demande, en fait, où est-ce que tu rencontres tes partenaires sexuels? Fait que là, ils te mettent Tinder, application de rencontre, des amis, des orgies.
Comment? C'est marqué orgie.
Orgie.
Ils voulaient être sûrs de tout couvrir. Hein?
Écoute, ils veulent avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on teste, puis où est-ce qu'on enfonce, ce qu'on doit foncer.
T'as-tu écrit ton nom, mettons, sur le papier?
Ben, t'as pas le choix. Faut que tu écrives ton numéro de RAMQ. Ouais, mais de toute manière, si t'avais quelqu'un devant toi, tu répondrais honnêtement, j'ose croire, à ces questions-là.
Moi, je vais être très honnête avec toi. Là.
Tu répondrais pas.
Si jamais j'avais fait une orgie, puis elle me demandait de où est-ce que je pense que j'aurais peut-être contracté si j'aurais jamais écrit orgie.
Ah ouais, hein? Mais en même temps...
Je pense qu'il y a un préjugé négatif envers les orgies.
Ouais, c'est ce qu'il dit.
Hey, en 2024, là, je trouve que c'est ségrégationniste.
2024, la question qui me fait le plus rire, mais en même temps, c'est rire, tu sais, j'étais fine là, en riant. Là.
Ouais.
Il m'arrive d'offrir des... Est-ce qu'il m'arrive d'offrir des services sexuels en échange d'une rémunération financière?
Donne-moi la face, c'est jamais arrivé.
C'est pas les goûts des autres.
Entre parenthèses, argent, puis on continue, ou de biens matériels. Et là, on précise, entre parenthèses, cadeaux, voyage, juste pour être sûr que des fois, c'est pas de l'argent, mais c'est plutôt quelque chose qui a été payé. Et qu'on... Alors, c'est très, 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 très bien fait. Moi, je conseille, si vous avez des enfants, si vous avez des ados, si vous êtes une personne actuellement active sexuellement, d'aller voir ce site-là. Prélib, ça se fait très, très bien. Super sympathique.
Prélib, puis oui, tu peux prendre un rendez-vous, puis ça va, tu vas l'avoir demain si tu veux. Je trouve ça franchement intéressant. Pour 15$, là, ça vaut la peine.
Ben, oui. C'était plus compliqué dans notre temps.
Ben, il y en avait sûrement moins.
Le CLSC.
C'est ça.
Ouais.
Les écoles. Maintenant, il paraît qu'au secondaire, maintenant, ils font, c'est ce que l'infirmière me disait, là, ils font dans l'école secondaire, mais il y en a qui aiment moins le fait que c'est pas trop anonyme parce que tu côtoies l'infirmier, l'infirmière.
Mais les générations ont changé. Là. Moi, j'ai passé deux tests dans toute ma vie. C'est sûr que j'ai été longtemps avec mes partenaires, mais j'ai passé deux tests. Mais moi, ça me rassure de savoir que les jeunes célibataires, 20, 30, 40, même 50 ans, maintenant, ils peuvent y aller puis c'est aussi accessible.
Encore faut-il qu'ils le fassent, là, je veux dire, pour que la syphilis revienne parmi nous. Il y a des gens qui ont été négligents, là.
Le condom, là, tu sais, tout le monde pense que le monde ici, là, est comme Sainte-Marie-Joseph, là, mais by the way...
Ah, c'est redevenu off pour bien du monde, là.
Puis les gens sont comme, je suis propre, je suis propre, on entendait ça, c'est tellement facile pour beaucoup de gens de ne pas le mettre. C'en est inquiétant. Là.
Une de mes amies qui venait faire des collaborations dans mon show dans le temps, elle me disait qu'il y a des gars qui retirent le condom pendant l'acte.
Mm. C'est criminel en passant, ça, si tu le dis.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est criminel.
Tu peux être accusé au criminel.
Quand tu n'as jamais pensé à le faire, là, c'est surprenant de savoir qu'il y a des gens qui pensent à le faire.
Oui. Sans le dire, sans... un frisson d'horreur. Puis, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de douter que vous avez quelque chose pour y aller. C'est comme moi, ça me pique nulle part. C'est juste...
Ah non, mais c'est de la prévention.
C'est de la prévention.
Les gens te demandent ça si ça pique.
Par texto. Je trouve que c'est beaucoup. Ah ben moi, je suis là à caractère informatif en passant pour votre vie.
Ouais. Moi, je suis là une demi-heure par jour. Je l'ai jamais vu se gratter. Là, pour ceux-là qui, je veux dire...
Imagine. Oh, quel spectacle négatif.
Prélib, sur Internet, vous allez pouvoir avoir accès à ça sans problème.
Hey. Sainte foi, pyramide à côté du shaker. Ça me fait encore beaucoup rire.
Il y a des données qui ont été recueillies par le service de transport et de la mobilité intelligentes qui sont rendues publiques aujourd'hui. C'est la ville qui rend ça public. Le réseau artériel de la ville de Québec pour ce qui est des infrastructures routières révèle une hausse moyenne de 15 % de la congestion et de près de 30 % de plus le matin.
Est-ce qu'on s'entend tous pour dire que c'est un digne reflet de la réalité? Je pense que oui.
Oui. Bien, en fait, moi, c'est ce que j'avais constaté. Puis c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on se posait la question la semaine dernière. Tu sais, là, tout d'un coup, les policiers se sont rendus compte qu'on avait des nouveaux arrivants qui embarquaient sur nos routes puis ils n'avaient aucune idée comment conduire sur nos routes. Ils se ramassaient encore en fin de semaine. Tu sais, puis je ne veux pas lui taper dessus, mais encore en fin de semaine, sur route de la Bravo, il y en a un qui était à 40 km/h puis il se demandait s'il allait continuer vers Val-Belaire ou s'il tournait à droite, c'est la capitale. Puis il était à 30 km/h. Écoute, il a failli se faire tuer.
Moi, j'ai fait beaucoup de routes en fin de semaine. Puis je te confirme qu'il y a beaucoup de blancs de souche, là, que c'était vraisemblablement leur première neige.
Ah oui?
Ah, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi c'est de même à toutes les années? Hein?
C'est une bonne question. Je ne sais pas.
Ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Puis l'entretien des routes, moi, je pensais que ça allait en s'améliorant. Puis ça a l'air que non. J'ai pris le parc des Laurentides en fin de semaine. À partir de l'étape jusqu'au Saguenay,
ça vient d'être fait.
C'est une patinoire. Ouais. Comment t'as fait avec aussi peu de précipitations en début d'hiver pour échapper complètement ta moitié de parc? À moins que le concept des quartiers blancs soit rendu étendu jusqu'à l'étape. Là, tu savais c'était quoi les quartiers blancs? Mm-hmm. C'était des quartiers où ce qui ne salait pas, où ce qui ne sablait pas. Puis il y a des gars qui sortaient patiner dans leur rue avec le patin à glace à tous les hivers. Parce que c'était un quartier qui n'était pas entretenu. Ben, c'était dans le parc des Laurentides, en fin de semaine, c'est l'impression que j'avais. C'est un beau parc à deux voies de chaque bord, puis il y a une voie qui est impraticable.
Exact. C'était la même affaire à Sainte-Marie. Ça n'a pas de sens. En fin de semaine, quand je suis monté sur l'autoroute, tu avais une voie que tu voyais quand même tes deux traces pour mettre tes pneus. Là. Mais la voie d'à côté, tu avais des gros F-150 qui passaient, là, cloutés. Pis...
Les autres, c'est bonne chance.
Mais
là.
Sinon, tu pouvais pas passer là. Pis c'est tout le temps comme ça au début de l'hiver.
Parce qu'on n'a jamais vu ça.
Oui. Puis.
c'est le premier hiver. Il faut nous comprendre.
Les gens ont tenté de s'adapter au fameux trafic, le fameux 30 % de plus qu'on a sur nos routes à Québec. Pour ce qui est des automobilistes. Là. Mais ce qu'on dit du côté de la ville, c'est que tout le monde a eu la même bonne idée, c'est-à-dire de partir plus tôt. Fait que ça se traduit à une hausse de trafic de 30 % entre 6h et 7h. C'est quoi la journée? Peut-être que les auditeurs peuvent participer au 88-971. C'est quoi la journée qui, selon vous, est la journée la plus achalandée sur nos artères?
De façon générale, là, pas d'accident, là.
De façon générale. Puis là, ben, on part de 2019 jusqu'à 2024.
Je vais y aller pour un lundi ou un mardi. Moi, je pense que les débuts de semaine sont pires que les fins de semaine.
Je dirais mardi.
Mardi?
Lundi, j'ai l'impression que télétravail, début de semaine, peut-être. Le monde part un peu plus tard.
Peut-être. Mardi, c'est-tu bon, ça?
Toi, tu dis mardi?
Ouais.
T'es très bon.
Ben, c'est le choix de la famille, là.
C'est effectivement...
ta famille? Ouais,
la famille du petit A.
C'est effectivement... Il y a 20 % de plus, okay, si on se fie à 2019, à 2024, là, pour ce qui est de la variation. Donc, 20 % de plus de personnes qu'en 2019, le mardi.
Ce qui rentre beaucoup par texto, c'est mardi puis après, c'est mercredi.
OK. Variation horaire 2024 par rapport à 2019... De 6 heures jusqu'à 7 heures, il y a 28,7% de plus de monde.
Ouais.
De 7 heures à 10 heures, 7% de plus de monde. De 11 heures à 14 heures, 11%. De 15 heures à 18 heures, 10%.
Est-ce qu'il y a des chiffres de fin de semaine dans cette étude-là? Parce que c'est une des choses, je pense, qu'on a tous observées, c'est que maintenant, le trafic est étendu, mais pas juste sur les heures de pointe. Tu prends ton char n'importe quand la fin de semaine, t'as à te rendre en ville, t'as à te rendre ailleurs, on dirait que le trafic s'est alourdi. On est en situation quasi constante de trafic à Québec, c'était pas le cas avant.
Samedi, en fin de semaine, là,
ouais.
Samedi, 17h30, Capitale jusqu'à Saint-Nicolas, j'ai pogné des séquences de trafic.
Ben oui.
C'est en pleine heure du souper, un samedi.
Les heures de midi aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement avant. Le vendredi midi, là, t'as un coup vite à faire, tu le réussiras pas. Là,
non, t'sais. Non, t'as raison. Ça, je vis souvent après notre show aussi, là, à 14h le vendredi. Là, essaie pas d'aller en ville, essaie pas d'aller magasiner, tu te retournes à la maison, puis c'est tout. Là.
T'as une heure pour dîner, fais-toi venir du lunch, parce que tu n'y arriveras
puis lui,
pas.
Lui, il va être dans le trafic aussi. Ah,
ouais. La plus grosse journée, donc de 6h le matin jusqu'à 23h59 le soir, où il y a le plus de monde sur nos routes, ce serait laquelle?
Vendredi.
Répète la question.
La plus grosse journée de la semaine,
oui.
Où il y a le plus de monde sur nos routes entre 6h et 23h59. C'est le vendredi, Denis.
OK. Oui.
On a tendance à ne pas penser que c'est le vendredi parce qu'on se dit, moi, à 17h, je passe sur les ponts le vendredi, j'ai pratiquement pas de trafic. Mais c'est parce que le trafic commence plus tôt.
Ah oui, puis on le voit nous autres, là, je veux dire. Quand on embarque, déjà, à 2h, on a de la circulation à faire le vendredi. Puis on regarde par les fenêtres, puis on le voit. Tu sais, ça commence déjà à s'accumuler sur les routes.
Mais avec ce qu'on venait de dire, moi, c'était sûr que c'est vendredi. Pour vrai, tu fais rien le vendredi, tu t'en vas à
la
maison.
C'est la stat qui nous le montre probablement le plus, là, tu sais, l'idée que le trafic s'est vraiment étendu 24-7 là, dans la région de Québec. Là.
On fait quoi maintenant? Tu sais, moi, il y a...
Tout ce qu'on peut!
Boulevard Laurier, je l'ai longtemps fait juste... en fait, je le faisais des deux bords. Je m'en allais à la station. Je partais, exemple, des ponts. J'embarquais sur Boulevard Laurier, puis je m'en allais jusqu'à la station. J'avais peut-être une dizaine de kilomètres à faire. Puis d'un bord, Denis, toutes les lumières étaient synchronisées. Je m'en suis aperçu parce que je suivais les chauffeurs de taxi, puis les gars, ils avaient juste la bonne vitesse pour pogner ça jusqu'en ville.
T'es habitué?
Fait que je me mettais en arrière d'eux, puis j'y suivais, je pognais toutes les vertes. Mais quand t'allais de l'autre bord, si tu pognais toutes les rouges, peu importe à quelle vitesse t'allais,
il n'y avait rien à faire.
Il n'y avait absolument rien à faire. L'intelligence artificielle va probablement aider justement à contrecarrer cette circulation-là, mais j'ai hâte de voir de quelle façon on va le faire. On va-tu le faire pour aider la circulation automobile ou on va la faire pour aider les piétons, les cyclistes? On va, au lieu de passage à piétons de 30-40 secondes, on va mettre ça à une minute et demie, mettons.
Tu sais, l'intelligence artificielle, elle va faire ce que tu lui demandes. Et ça serait peut-être intéressant et transparent, quand on va commencer à le faire, de nous partager la liste des paramètres.
Qui la programme?
Tu sais, c'est quoi les demandes spéciales qu'on fait à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on priorise? De quelle façon? Moi, je rentrerais une commande là-dedans, puis c'est de faire en sorte que ça roule le plus et le mieux possible en période de trafic, puis de faire tout ce qu'il faut pour. Mais j'ai l'impression que ce sera peut-être pas ça, là.
La nuit, les quatre flasheurs pour les lumières, ça fonctionne bien.
Je pense que oui.
Mais pourquoi on le fait pas partout à la grandeur du territoire?
Parce qu'on se sert des têtes brûlées qui n'arrêtent pas nulle part pour dire que c'est trop dangereux.
Peut-être que ça donne des tickets supplémentaires aussi.
Mm-hmm.
Les policiers, ils te voient aller. Là, t'es pas supposé passer là, hein, rouge. Mais là, toi, ça fait comme deux minutes qu'il n'y a pas un chat. Fait que tu t'essayes pareil.
Puis le pire est à venir. C'est ça qui est peut-être inquiétant. Là, ceux qui trouvent que le trafic est rough à Québec, puis là, on veut embarquer l'intelligence artificielle là-dedans. Le pourquoi du comment, c'est que tout le monde est d'accord. En 2030, ça va être pire. Le trafic, les situations de trafic à Québec. Puis on essaye de prévenir un problème déjà présent puis de dire, bien là, l'humain sera plus capable de gérer le trafic avec l'espèce de grand gestionnaire artériel là, qu'on a acheté il y a plusieurs années de ça. Et puis que l'intelligence artificielle prenne le relais. À partir du moment où on rentre les bons paramètres et qu'on fait les bonnes demandes, moi, j'ai absolument confiance que ça peut améliorer la donne. Là.
J'ajouterais à ça des agents de sécurité plutôt que des policiers pour faire la circulation quand il y a des feux de synchronisation qui sont éteints. Quand il y a des... Ah, comment?
On a-tu assez avec la pénurie?
Ben, en fait, c'est des policiers de la ville de Québec qui font ça. Ce serait une game de syndicat-ville.
Évidemment.
Parce qu'on dit, ouais, mais nous, on veut faire travailler nos policiers. Il y a une escouade spécifique à la ville pour ça. Mais de l'autre côté, un agent de sécurité à 22-23 $ de l'heure peut faire le travail quand même.
J'ai une question. Est-ce qu'on ne revoit pas la manière dont ça fonctionne parce qu'on s'est tellement fait rabrouer puis mis, fait mettre dans un coin par rapport à des chroniqueurs et autres du côté de Montréal, puis on sait qu'ils sont souvent écoutés un petit peu plus, là, les députés, les ministres qui sont du côté de Montréal, par rapport au trafic à Québec, entre autres, la chronique d'Infomanal. Est-ce qu'on a perdu une crédibilité, même si on expose des chiffres et on essaie de démontrer?
Ben, c'est juste que Montréal, la perspective montréalaise vaut pas une crotte de nez. C'est des gens qui sortent pas de l'île. Ils sortent pas. Ils ont pas passé de l'autre bord des ponts. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'île, pour eux autres, c'est des extraterrestres, c'est des affaires qu'ils comprennent pas. Hein? Des ados sur un 4 roues, ça existe! On fait un reportage!
Ben, on est
des enfants sur un 4 roues à Saint-Fulgence! Ils savent pas de quoi ils parlent.
Ils font un saut Saguenay quand ils arrivent en motoneige du côté de la cage au sport, mais ça, c'est une autre histoire. Là.
Sauf que ils ont perdu leur guerre à la circulation et au trafic à Montréal.
Mais on les écoute quand même.
Ben, on a pas l'affaire à les écouter, je veux
mais
dire.
Mais c'est ça, moi, je me demande s'il n'y a pas un problème de ce côté-là.
Mais comment ça se traduirait? Tu veux dire qu'on utiliserait...
Ben, entre autres, tu sais, quand tu as fait l'entrevue avec les trois amigos, là, mm-hmm. ils ont parlé mm-hmm. d'à quel point ils ont des fois lutté pour certains dossiers du côté de l'Assemblée nationale parce que ben, c'était des représentants de Québec pour certains puis c'était super difficile à se faire entendre, à se faire écouter. Après, on a un Jean-René Dufort que j'adore, mais que j'ai détesté sa chronique par rapport au pont. C'était un petit peu démagogue quand ça a été livré parce qu'on avait déjà du trafic. Il y a eu une explosion d'eux et c'est resté depuis la pandémie. Y a-t-il une difficulté de faire valoir ces plans-là parce que et ces statistiques-là parce que, justement, c'est un enjeu de Québec?
Ben, les pires, c'est pas ceux de Montréal qui nous regardent de haut. C'est ceux de Québec qui nous représentent très mal. On a un ministre responsable de la région de Québec qui dit que Saint-Roch se dégrade pas. La méconnaissance des Montréalais par rapport à Québec, c'est une chose, puis ça s'explique très bien.
J'ai vu que la chance qui dit « pauvre homme
». Mais
c'est-tu lui qui dit ça, la chance, oui?
Tu sais, on a des gens qui supposément vivent ici pour nous représenter puis représenter nos problèmes, puis c'est des gens qui nous disent « ben, Saint-Roch, c'est correct », pour prendre un exemple parmi tant d'autres. C'est des gens qui vont nous dire qu'un troisième lien, c'est essentiel, un troisième lien, on n'en a pas besoin, puis un troisième lien, ça redevient essentiel à partir du moment où vous votez pour des péquistes. Donc, il y a plein d'affaires qui ne se peuvent pas, puis ça vient d'ici, ça ne vient pas de Montréal. Moi, c'est ce bout-là que je trouve le plus malheureux. Si nos représentants se battaient pour nous autres, puis nos problèmes, au lieu de les comparer avec Montréal, au lieu de juste écouter le premier ministre puis de suivre la trail, peut-être qu'on aurait des problèmes qui se régleraient plus rapidement.
Il y a un vieux monsieur moustachu dans le temps qui disait « Si vous voulez savoir comment pensent les criminels, pensez sale. » Je vais faire un parallèle avec les politiciens.
Tu parles de Guy Mongrain, évidemment.
Ça se pourrait-tu que les politiciens, exemple à Québec, puissent faire exprès pour qu'il y ait un genre de trafic induit, qu'on n'aide pas la circulation parce que ce qu'on veut, c'est que les gens se découragent puis que les gens se ramassent dans les fameux autobus du RTC. Ça se pourrait-tu non. que ce soit ça?
Je veux pas penser sale de même.
La faiblesse des politiciens qu'on a au Québec actuellement, les politiciens municipaux, elle est flagrante. Madame Plante dit quelque chose à Montréal. Ça demeure à Montréal, mais c'est pas nécessairement entendu par le provincial. Même affaire pour ce qui est de Québec. Bruno Marchand dit quelque chose, il est fâché, il est pas content. C'est pas entendu par le provincial.
Ils n'ont pas besoin parce que les chiffres montrent la réalité de Québec. Le parc automobile qui continue de grandir. Les chiffres concernant la circulation. Tu n'as pas besoin d'intervenir parce que les problèmes sont déjà là. Ce que tu peux faire, par exemple, Yann, c'est retarder le développement de tes infrastructures routières. Puis ça, ben, ça peut créer des problèmes que tu pourrais régler autrement. Parce que les gens qui partagent l'étude de trafic de ce matin nous disent que c'est impossible à Québec de rajouter des voies supplémentaires. À vue d'œil, rapidement, là, si on fait un petit brainstorm, je suis sûr qu'on est capable de trouver plein d'endroits où c'est super facile de rajouter des voies. On n'est pas à Rome, là. Faut arrêter de niaiser. Je pense que le moment précis, si tu veux penser sale comme politicien, la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est retarder le développement des infrastructures routières parce que pendant que ton parc augmente, le parc automobile, tu as de plus en plus de monde sur les routes puis tu ne développes plus ton réseau routier.
Puis les gens se découragent.
Tu laisses aller les choses, puis effectivement, les gens se découragent. Puis à un moment donné, ben, du monde comme moi renonce juste à aller à Québec en char.
Mais on s'entend-tu que c'est machiavélique un peu? Comme façon de faire les choses?
Tu sais, les véhicules n'ont jamais été aussi petits. Là. Ça rapetisse de plus en plus. On fait de plus en plus attention à l'environnement. Les véhicules ne consomment de moins en moins de pétrole. Puis heureusement, il y a de plus en plus de voitures hybrides. Il y a des voitures électriques. C'est que j'ai l'impression des fois qu'ils se disent « Bien, ils ne comprendront pas. Bon, on va leur faire comprendre. »
Il y a un petit peu de ça.
Mais pour qui ces gens-là travaillent? C'est nous qui les avons mis au pouvoir. Pourquoi après ça, ils deviennent comme les torsionnaires de leur population?
C'est parce qu'ils vont te donner l'argument visionnaire de dire si on ne force pas les changements de comportement, on est condamné à juste voir le parc automobile augmenter, le trafic augmenter et ainsi de suite. Puis ce qu'ils vont te dire, c'est que même si tu augmentes le nombre de voies, même si tu élargis les autoroutes, même si tu mets un troisième puis un quatrième lien, on ne viendra pas à bout du trafic. Donc, on doit forcer le changement de mentalité de dire... Il y a de plus en plus de monde qui vont devoir prendre le transport en commun. C'est la seule façon de régler les problèmes de congestion en ville.
Ça, c'est les experts.
Ça, c'est pas moi qui dis ça, non, by the way, là, juste pour être clair.
C'est
là,
les experts qui disent ça. Ouais. Mais le Québec a été bâti sur les experts. Regardez tout ce qui se passe actuellement autour de nous. On est-tu vraiment plus avancé? T'sais, moi, je pense que des solutions comme les frères Trudel peuvent avoir à certains endroits, que ce soit dans le secteur des Quatre Bourgeois ou encore que ce soit dans le secteur de Place Fleur-de-Lys, bâtir en hauteur puis faire en sorte que les gens n'ont plus nécessairement besoin de sortir de leur quartier parce qu'ils peuvent être à pied partout puis faire toutes leurs petites affaires.
Un milieu de vie qui s'auto-suffit.
Exact. Au même titre que les gens qui habitent dans le Vieux-Québec, ils n'ont pas besoin de stationnement. Hein.
Exact.
Ils peuvent tout faire. Leur... C'est sûr.
Mon rêve de retraite, hier.
Pour ce qui est de l'épicerie, tu vas rusher un peu. Il faudrait que tu te fasses livrer.
Bon, faire livrer.
Mais je veux dire, dans le Vieux-Québec, as-tu vraiment besoin d'une voiture? Même affaire pour ce qui est de... T'es à Sainte-Catherine, à Montréal. As-tu vraiment besoin
d'une voiture? Absolument pas. C'est un problème plus qu'une solution.
Fait que des solutions comme ça, puis peut-être de monter aussi les édifices en hauteur. Si tu veux, la 800 puis la 801, le trajet, ben tu prends les immeubles-là, tu sacs tout ça à terre, puis tu montes ça en hauteur, puis tu mets comme 500 personnes, un par-dessus l'autre, puis ça va fonctionner, votre affaire.
Puis tes trois premiers étages, fais-toi un mini centre d'achat avec tout ce que ça prend, tu sais.
Exact.
Un exemple.
Mais pourquoi nous autres, on a ce type d'idée-là? Bien, c'est sûr qu'on regarde les frères Trudel, puis on se dit, regarde, on va prendre exemple sur eux autres, mais pourquoi les politiciens pensent pas à ça? Pourquoi Pierre Poilievre, faut qu'il traite Madame Plante d'incompétent, puis Bruno Marchand d'incompétent, pour qu'à un moment donné, les contrats de construction se libèrent rapidement, les permis de construction?
Il y a une mentalité qui est dure à casser, hein, que l'entrepreneur ou le développeur, c'est un méchant. Je ne sais pas si tu te souviens des films qu'on écoutait quand on était petit.
Monsieur Burns.
Oui, mais les méchants, c'était tout le temps des gens qui construisaient des centres d'achat. Moi, j'ai jamais compris ce bout-là, mais tu sais, le développeur immobilier, c'était comme le démon, c'était comme le méchant. Puis on dirait qu'à Québec, c'était le cas avec Régis Labeaume, c'est le cas avec Bruno Marchand aussi. On voit encore les développeurs comme ça. Alors que ce qu'on voit, puis on est peut-être plus nono que les autres aussi, mais ce qu'on voit présentement, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui essayent justement de créer des milieux de vie et qui ont des sensibilités peut-être que la génération d'avant n'avait pas sur le fait d'aller voir les gens où on s'installe puis dire « Hey, by the way, vous avez besoin de quoi, vous autres? » Puis c'est comme ça que, comme par magie, il y a une épicerie qui va apparaître au pied d'une tour à condo ou à logement, tu sais, que tu vas développer des espaces aérés de vie qui vont faire en sorte que « Hey, finalement, il n'y a pas personne qui m'a mis un gun sur la tempe, mais j'aurai pas de char. Je pense que je vais être correct dans mon secteur de vie, tu sais. » Et c'est comme ça que les vrais changements se font dans une démocratie. C'est quand tu donnes mieux à quelqu'un, il va faire le choix tout seul. T'sais.
Plutôt qu'avoir un esprit machiavélique puis de mettre le bordel à Québec en disant ben, « Les gens vont comprendre parce qu'on va leur taper à coups de marteau sur la tête. »
Dans ce temps-là, tu fais juste fâcher tout le monde.
Ben, exact. Puis c'est ce qui arrive. Là, j'ai des auditeurs qui disent « Moi, j'attends juste encore quelques années pour sacrer mon camp de Québec alors que c'est pas ça qu'on veut. » Moi, je l'adore, la ville de Québec, puis je veux qu'on reste ici le plus longtemps possible. Mais quand tu as des maires comme ça qui, visiblement, n'écoutent plus la population puis ils se disent « Regarde, on va frapper dessus à coups de marteau parce qu'ils sont trop imbéciles pour comprendre. » Puis ils vont embarquer dans les autobus alors que les gens veulent pas embarquer les autobus.
C'est ça.
Tu prends l'autobus par nécessité. Là. On va regarder le matin qu'est-ce qui se passe. Là. Moi, je regarde à Val-Bélair. Là. C'est des immigrants qui prennent l'autobus. T'sais, je veux qu'ils prennent l'autobus, mais ils veulent une Mercedes pour eux autres. Là. Ils n'ont pas les moyens de se payer le billet d'autobus. Là. Je le subventionne, le billet d'autobus, déjà.
Ouais.
On le subventionne à 70. Eux, ils peuvent payer 30 de leur passage. Mais en bout de ligne, si moi, je suis plus capable de payer mes propres affaires, je vais être à côté d'eux. Puis le jour où on sera tous à côté d'eux, le billet d'autobus va coûter combien? Ouais. Parce qu'il n'y aura plus personne pour les subventionner.
Ça, ce serait un chiffre intéressant à voir à un moment donné. Qui prend l'autobus par choix? Et sais-tu? Puis quand je dis par choix, là, c'est j'ai de l'argent pour m'acheter un char, mais je fais le choix de prendre l'autobus parce que je trouve ça plus pratique pour des raisons environnementales, pour des raisons d'économie ou whatever. Ça, c'est un chiffre qui est, premièrement, énorme ou pas? C'est un 10 % de ceux qui prennent l'autobus? C'est un 30 % Puis ça monte-tu? Ça baisse-tu? Ça serait révélateur, ça, dans ce qu'on vit présentement. Là.
Bonne chance d'avoir un sondage le plus près de chiffres. La vérité possible.
Ouais. C'est beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'immigrants.
De toute façon, si le chiffre ne donne pas le résultat qu'on veut, on va chialer contre ceux qui font l'étude. Là. C'est ça qu'on fait
présentement. J'ai certains de mes amis qui le font, mais ils arrivent de Montréal parce que ça fonctionnait bien à Montréal puis ils font le saut rendu à Québec.
Oui. Oui, puis je veux dire, on n'a pas les mêmes vents, là.
Non, entre
je regardais en fin de semaine, là, tu sais, il y avait comme une mini-tempête de neige là, dans le secteur de Québec, là. Puis là, il attendait l'autobus, puis il avait l'air d'un bonhomme de neige, là. Puis mais ça avait pas Montréal, de l'air agréable.
Ça, à Montréal, je l'ai vécu, puis c'était pas agréable. Mais vraiment, c'est l'efficacité du réseau ici qui est pire encore que quand Mère Nature se fâche.
Mais encore là, ils ont juste à aller habiter sur le bord de la 800 puis de la 801. Je veux dire, qui va à Val-Bélair pour dire « Hey, je vais prendre le réseau de transport de la capitale pour aller travailler en
aventure? » Mais des fois, où tu habites, tu peux pas nécessairement choisir avec le prix des loyers maintenant. Là, tout le monde aimerait bien ça que ça soit à l'endroit le plus efficace possible, mais le portefeuille ne te le permet pas toujours.
Mais c'était comme ça dans notre temps. T'sais, on était
c'était moins cher.
Comment?
C'était moins cher.
C'est vrai que c'était moins cher, mais on était étudiants et on se disait « ben moi, j'ai pas de voiture, fait que ça va me faut que je choisisse un endroit pour où je vais pouvoir aller travailler, pouvoir marcher, faire mes affaires. » Mais là, aujourd'hui, là, t'es dans le fin fond de Val-Bélair, t'es dans un G, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller te porter avec un véhicule mobile qui appartient au RTC. Je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Ouais.
Mais tu sais, j'essaie de me rappeler mes premières années à Québec. J'avais un char qui n'était pas fiable pour deux cents. J'avais peut-être 800 piastres de réparation à faire dessus.
C'est encore ça.
Mais tu sais, mon choix de vie, ça a été, bon, je travaille dans une station de radio qui est en plein cœur de la ville.
Oui.
Je vais m'installer dans le bloc appartement à côté. Mais le bloc appartement à côté, il n'était pas 1200 piastres pour un 2,5 par mois. Tu sais, il était en bas de 300.
Bien fun, tout le monde le ferait.
C'est ça.
Je trouverais ça donc bien agréable aussi.
Puis j'essaye de computer. Tu sais, ça aurait été quoi mon alternative? C'est quoi les choix de vie que j'aurais fait si en 2024, je me retrouve dans la même situation? Puis peut-être bien je me ramasse à Val-Bélair
à prendre une
chance.
Aussi,
ou à prendre une chance avec un char qui ne devrait pas rouler. Tu sais.
Ah non, c'est pas toujours agréable. Denis Gravel, merci beaucoup.
Hey, thank you, les amis.
On t'écoute dans le retour. Je te promets qu'on va baisser le chauffage.
C'est gentil.
Il fait chaud, hein?
C'est l'enfer.
Ouais.
Ouf.
Mais ça doit être toi, là. Je
sais pas. Je pense pas, là. Crème, je t'en
mange
pas. Ah, oh, va-t'en.
On sait ce que ça peut faire, travailler avec des êtres comme nous.
Ah oui, la chaufferette. Bon, je vais dans ma ménopause à 30 ans.
Exact. On vient. Merci, Denis.
Salut.
Marceau, mais on économise notre créativité pour le contenu. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 37, c'est le bon Noël à Marceau. C'est mon bon Noël que j'envoie directement chez vous. Ça vaut à peu près quoi, total tout, 750 $. Ça vient d'où? Ça vient des boutiques Passe-temps 3000 qui vous offrent depuis 50 ans une immense sélection de jouets et de jeux. Là, il y a des casse-têtes, des jeux de société, des jeux de construction, mais aussi il y a des pistes de course, des trains électriques, des véhicules téléguidés, des hélicoptères, des avions téléguidés, il y a de tout. C'est vraiment l'endroit pour aller magasiner pour le temps des fêtes, les amis. En fait, à l'année, là, si vous êtes un amateur de casse-tête, il y en a plus de 10 000 dans la place. Le concours, ça s'appelle le Bon Noël à Marceau, comme je disais, puis à chaque jour, ben, je vous révèle ce que je mets en dessous de votre sapin dans le Bon Noël et vous devez aller sur le blvd.fm et mettre exactement ce que je vous dis sur le formulaire. Et vous courez la chance de gagner ce fameux bas de Noël d'une valeur de 750 $. Donc, je pige dans tout ce que j'ai ici. Voilà. Ensemble de jeux Gladius pour adultes. Ça, c'est d'une valeur de 80 $ que j'ajoute dans mon bas de Noël.
Des jeux pour adultes?
Oui. Ensemble de jeux Gladius pour adultes. Ah non, c'est pas ce que tu penses.
OK. Des jeux de questions, des choses comme ça.
Voyons. T'avais-tu dit, quand je me suis reviré, t'avais des drôles de petits yeux? Là.
Non, arrête. Ça, c'est dans tes rêves. J'avais pas des drôles de petits yeux. J'avais des yeux qui s'interrogeaient.
Non.
J'étais comme Éric Duhem, mais est-ce qu'il est repassé en studio?
Non. Donc, merci beaucoup à Passe-temps 3000 de rentrer dans ce fabuleux concours-là comme ça. C'est vraiment le fun. C'est un beau cadeau, 750 $. Fait que à surveiller demain. Mais aujourd'hui, le mot de passe sur blvd.fm, c'est Ensemble de jeux Gladius pour adultes.
Et en passant d'ici la fin de la semaine, Yannick, tu vas être obligé et forcé de jouer à un de mes jeux préférés, qui est un jeu de questions.
Oui. Est-ce que c'était question pour adultes?
C'est question pour adultes, mais questions qui n'iront pas dans des côtés sombres de la force. Puis c'est Marc Nadeau, justement, de Passant 3000 qui m'a conseillé ça pour vos cadeaux de Noël.
C'est très cool.
Pour vous amuser entre vous.
Bon, je vois que t'as été des petits yeux coquins, que t'as été chercher un café à 10$.
Mais non, il m'a pas coûté 10$.
Ben, c'est un Starbucks, ça vaut 10$.
Je comprends, mais ce matin, j'étais dans la pyramide pour ce que vous avez su en début de show.
Starbucks de la pyramide.
Puis moi, j'arrive là, j'aime ça, un café. Normal, ouais. Tu sais, un café filtre. Je veux pas du sirop, puis du sirop, puis du sirop dedans.
Tu vas pas au Starbucks pour un café filtre.
Ben, c'est ça qu'il y avait, le café. L'affaire, c'est que j'arrive à la caisse, Yannick, tu ne croiras pas. Je demande un café filtre, puis je me sentais festive. Je dis, pouvez-vous mettre un lait de crème? Tu sais, la crème était festive. Je me
sentais festive.
Elle me regarde, elle dit, ça ne sera pas bien long, ça va demander un petit peu plus de temps parce qu'il faut partir le café filtre, on ne se fait jamais demander ça.
Puis ça coûte combien, un café filtre chez Starbucks?
Il m'a coûté 4$. C'est plus que la moyenne.
Ça doit coûter 30 cents à faire.
Mais c'est moins que... Ben je sais pas. S'ils partent une pinte pour moi, puis j'en prends juste un petit fond, ils gaspillent le reste.
Vu de même. Hey, encore aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de la violence dans les prisons à la grandeur du Québec qui augmente. Des drones qui font de la livraison de couteaux, des drones qui font de la livraison de cellulaires. De voir qu'il y a l'épuisement des troupes aussi, puis que le psychologique, ça va pas nécessairement bien. Écoute, je lisais dans un article ce matin qu'il y a 30% des absences qui sont dues à des causes psychologiques pour ce qui est des gardiens de prison. C'est catastrophique ce que nos gars et nos filles vivent à l'intérieur des murs. On n'a pas le choix, hein? Ça prend des employés pour gérer la clientèle carcérale.
Imagine, Yannick, il commence à avoir un genre d'exode et des gens... admettons qu'ils ne seraient pas qualifiés, comme on voit dans nos écoles, qui s'en vont faire du remplacement, parce qu'on n'aurait plus le choix, parce qu'il manquerait trop de monde, dans des prisons.
Oui, on va être rendu à prendre des gens chez les Hells Angels pour surveiller des gens des Hells Angels. Ça sera complètement capoté.
Mais qui est qualifié, le crime organisé?
Oui, c'est ça, on se rendra pas là. Mathieu Lavoie, qui est président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Salut!
Salut!
T'as-tu hâte qu'on t'appelle pour des bonnes nouvelles, Mathieu?
Ben, écoute, oui, j'ai hâte qu'on nous appelle pour des bonnes nouvelles, hein, mais bon, c'est pas la réputation du service correctionnel, généralement, d'offrir des bonnes nouvelles, là. Quand on regarde la façon, justement, que c'est les situations que vous énumériez au début sont gérées, souvent par des gens qui ont peu de connaissances du service correctionnel, qui ont beaucoup de diplômes, mais peu de connaissances de ce qui se passe réellement dans les établissements de détention. Ça devient difficile un peu.
Ben, je regardais la quincaillerie que les gars se font livrer par drone. Là. Je m'écrirais chez Canac. Il y a du stock en sacrifice. Par où ça passe, ça, Mathieu? Les pics, les cellulaires, ça passe par les fenêtres, mais on est-tu vraiment obligé de leur fournir des fenêtres qui s'ouvrent? Là? Comment ils font pour ouvrir les fenêtres, se faire livrer ça par drone?
Généralement, là, ce qu'on remarque là, dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est que les détenus sont livrés des outils, les détenus brisent leurs fenêtres. Écoutez, dans des établissements, on a eu là, des détenus retirer la fenêtre, sortir à l'extérieur ou encore se faire livrer directement à la fenêtre, un peu comme Amazon livre à la maison. Là. Donc, c'est la réalité où, dans certains établissements, c'est 2 à 3, des fois plus de drones qui arrivent par jour avec du matériel parce qu'il y a un profit à faire pour les organisations criminelles, parce que c'est un marché lucratif, parce que ça finance leur activité à l'extérieur des murs. Et plus ça va, puis plus les quantités sont élevées, plus ça va, plus les guerres de groupes criminalisés à l'intérieur des murs se transposent à l'intérieur des murs. Donc, c'est clair que ça nous prend, oui, des outils, ça nous prend des effectifs, ça nous prend une volonté politique aussi de raffermir l'encadrement à l'intérieur des établissements.
Des brouilleurs d'ondes à l'intérieur des centres carcéraux, pourquoi on n'a pas ça?
Écoute, ça fait 10 ans que j'entends parler des brouilleurs d'ondes. Je crois que c'est en 2015-2016 les premières fois qu'on en a entendu parler suite aux évasions en hélicoptère.
Ouais.
C'est une législation qui est fédérale. Il y a des discussions entre le gouvernement provincial, les gouvernements provinciaux, parce qu'en fait, l'ensemble des provinces, l'ensemble des établissements carcéraux à travers le Canada seront pris avec cette réalité-là. Et quand je parlais de volonté politique, oui, il doit y avoir une volonté politique au provincial, ici, le ministre Bonnardel, le ministère de la Sécurité publique, mais il doit y avoir une volonté politique fédérale aussi de nous donner les pouvoirs d'utiliser ces outils-là, de les avoir à l'intérieur des murs pour justement contrer le trafic, contrer le crime organisé qui finance à même ce trafic-là, qui poursuivent leur activité, même bien assis dans leur cellule. Ça devient là, ridicule quand on voit ça.
Ben, tu sais, prenons par exemple un article que j'ai vu passer en fin de semaine, je ne me trompe pas, je pense que c'était La Presse, on parlait de Arab Power. Les deux principaux membres de ce gang-là de rue sont en tôle puis dirigent leurs activités avec un téléphone cellulaire. Donc, peuvent commander de la dope à l'intérieur pour continuer à faire des affaires, mais peuvent commander des meurtres pour l'extérieur aussi.
Ben oui, en effet, pour ce groupe-là, là, criminalisé, il y en a un qui est au fédéral présentement, un qui est au provincial en attente de procès pour meurtre. Et clairement, là, ce qu'on voit, puis écoutez, on a vu qu'il y en a un qui s'est fait livrer des pizzas, là, pardon, dans un établissement de détention.
Pardon? Un détenu qui se fait livrer de la pizza?
Ben, c'est ce qu'on a eu comme.
Par la fenêtre, là. Par où? Comment elle rentre? Je comprends, ben, mettons, une cigarette, mais.
Ouais.
Généralement, ça va être soit aux fenêtres, ça va être dans les cours extérieures, le drone va arriver, va venir livrer directement, puis le temps qu'on intervienne, ben, il y a plusieurs détenus en cours, donc il faut intervenir de façon sécuritaire. C'est vraiment là rendu rire du système judiciaire, rire du ministre de la Sécurité publique aussi. Puis ça nous prend les outils, ça nous prend une façon d'intervenir. On voit que la violence est omniprésente actuellement, l'intimidation envers le personnel. On l'a vu le 1er décembre, là, suite à une agression sur agent qui est grave et que l'agent est encore hospitalisé aujourd'hui et qu'on ne connaît pas l'ensemble là, de son futur. Donc, clairement, on doit avoir une volonté politique au ministère de la Sécurité publique, dans les hauts dirigeants du ministère de la Sécurité publique, de raffermir, d'encadrer, de venir dire la récréation est finie, puis qu'on arrête seulement de nous parler du droit du détenu, mais qu'on parle également du droit de la société à avoir des prisons sécuritaires.
C'est incroyable, je veux dire, de se faire livrer une pizza par la fenêtre, par drone. Je veux dire, tu sais, j'en ris, là, mais c'est triste. Là. Mais si on est capable de le faire avec une pizza, on est capable de le faire avec de la dope, on est capable de le faire avec à peu près n'importe quoi.
La dope, j'aurais même pensé, Yannick, c'était plus difficile, parce que je me dis, ça arrive dans des petits sachets, c'est une chose, mais une pizza, imagine la boîte, ils l'ont pas pliée, là. Pense-y, si tu rentres une pizza, tu rentres pas mal de choses, tu peux même avoir de la visite rendu là.
Ah, ça doit sûrement arriver. Ça doit sûrement arriver. Mais c'est fou, hein, tu sais, Mathieu. À chaque fois qu'on se parle, j'apprends plein de choses de ce qui se passe en nos murs. Puis de voir que tu as un 30% d'absentéisme dû à des problèmes psychologiques, tu sais, ça coûte cher pour ces gens-là parce que, tu sais, à un moment donné, ça se peut qu'ils décident tout simplement, tu sais, je vais-tu laisser ma santé psychologique à l'intérieur des murs? Non, je vais faire d'autres choses. Je vais aller faire de la circulation parce que les agents de la paix au service correctionnel, c'est pas des salaires à 150 000 par année?
Ben non, en effet. C'est sûr qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire là, au service correctionnel, mais quand on regarde la violence, quand on regarde les choses auxquelles les agents correctionnels sont témoins, l'intimidation, on l'a vu là, dans les derniers mois, des cas de torture en détention faites par des gangs de rue, pour en se filmant et ensuite en l'envoyant sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, bien c'est sûr que ça a une incidence psychologique. Le temps supplémentaire obligatoire également qui est imposé aux agents correctionnels actuellement, bien ça a un impact au niveau psychologique. Et oui, ça entraîne des départs. Quand on regarde dans les dernières années, on a plus de 300 agents qui ont démissionné, qui ont quitté, qui sont allés vers une autre carrière.
Ils sont pas revenus,
donc, clairement, là. Non, ils sont pas revenus, ils sont partis tout bonnement. Là,
encore en sécurité ou vous le savez pas? Par exemple, est-ce qu'ils sont devenus gardiens de sécurité ou gardes du corps ou peu importe, c'est toujours dans le même domaine?
Bien, la plupart, c'est dans le même domaine. On est dans un contexte où, justement, c'est concurrentiel. Il y en a qui vont partir vers les corps policiers, il y en a qui vont partir vers le fédéral, il y en a qui vont partir vers d'autres emplois là, qui peuvent être liés à la sécurité, exemple chez Hydro-Québec. Quand on regarde les départs, généralement, c'est en ce sens-là, c'est pas l'entièreté, mais clairement, il va falloir que le gouvernement mette l'épaule à la roue pour, oui, améliorer les conditions de travail, oui, de l'autre côté, améliorer la sécurité des établissements, parce qu'actuellement, on est capable de recruter, mais tant qu'on n'arrêtera pas l'hémorragie des gens qui quittent, Quand on ne fera pas de la rétention du personnel, ben la problématique va être là sur le manque d'effectifs là, qu'on vit depuis des années.
Comment ça fonctionne, le temps supplémentaire obligatoire? C'est un peu comme les infirmières, c'est-à-dire que quand tu as terminé ton corps à 16 heures, on dit que tu es obligé de rester juste pour un autre corps supplémentaire ou c'est, je sais pas, moi, c'est un 4 heures, 5 heures?
Ça dépend des cas. Il y en a que ça va être pour quelques heures. Ça va être pour un cas, le corps de travail complet. On le voit aussi que l'employeur, de fois, tente et réussit parfois à faire rentrer le monde avant en leur ordonnant parce qu'il manque d'effectifs, parce qu'il y a des problématiques, parce qu'on a des urgences. Mais clairement, ça vient ajouter de la pression. Il y a déjà beaucoup de temps supplémentaire volontaire qui se fait dans le réseau correctionnel, entre 30 et 40 millions par année de temps supplémentaire qui se fait pour tenir à bout de bras les établissements de détention. Et à ça, on rajoute le temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça devient difficile pour la conciliation travail-famille, ça devient difficile au niveau psychologique. Déjà, on passe au-dessus de 200, plus de 200 quelques jours là en établissement de détention, tout dépendant de l'horaire de travail. Face à des situations toujours plus potentiellement traumatisantes, face à des situations d'intimidation. Et là, on nous exige en plus, on nous ordonne, on nous menace de perdre notre emploi si on refuse du temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr que ça devient difficile là, pour les agents.
Tu sais, je connais un petit peu plus le merveilleux monde de la santé. Ma conjointe est infirmière, puis tu sais, on jase des fois du temps supplémentaire obligatoire, de voir à quel point des fois les filles à l'intérieur, ils veulent pas, mais ils oublient des affaires qui n'ont pas rapport. Mmh. Ou quand ça fait deux quarts que tu es là, puis tu as travaillé toute la nuit, on te demande de rester. Quand c'est le temps de faire une prise sanguine, Pascal, tu as de la misère à trouver la veine tellement que tu shakes.
Puis habituellement, c'est chose facile pour toi.
Mais pour ce qui est des centres de détention, c'est parce que ces gars-là et ces filles-là qui travaillent dans les centres de détention, faut que toi, il faut qu'ils soient tout le temps en hyper-vigilance. Là. Mm-hmm. Fait que là, est-ce qu'ils baissent la garde quand ils sont dans un temps supplémentaire? T'sais, c'est le danger de baisser la garde, Mathieu.
C'est clair que ça a une incidence à ce niveau-là. Puis vous savez, vivre de façon là, continue en hyper-vigilance, bien, c'est aussi, ça a des impacts au niveau psychologique. Et t'sais, parallèlement, on sent beaucoup de nous demander de faire plus avec moins, et donc de continuer les activités pour les personnes incarcérées, continuer les services aux personnes incarcérées, mais en coupant dans la sécurité, en coupant dans les effectifs. Fait que c'est sûr que ça devient un impact majeur au niveau psychologique pour les agents.
Comment ça se passe le temps des fêtes pour ce qui est des agents de la paix en service correctionnel?
Ben, nous, écoutez, la prison ferme pas, donc c'est sûr que rendu au 23 décembre, on met pas toutes les personnes incarcérées à l'extérieur. Fait que c'est sûr que les agents vont travailler. Il y a des équipes qui travaillent, là, vu qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est sûr que ça aussi, ça a des impacts souvent, puis en même temps, des fois, il y a davantage soit d'alcool frelaté à l'intérieur des murs, de drogue. Donc, il peut y avoir des événements là, difficiles là, à Noël et au jour de l'an. Ouais.
C'est vrai que parfois, les agents ils lèvent les yeux sur certains trucs pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes pendant le temps des fêtes. On sait que bon, ça fume du cannabis, on les laisse fumer, puis on se dit, regarde, au pire, ils se battront pas sur le cannabis. Là.
En fait, ce qu'on remarque beaucoup, puis je dirais de lever les yeux, c'est pas nécessairement les agents. Quand on regarde dans les derniers mois, dans les dernières années, les gestionnaires ou le ministère lèvent les yeux en disant, ben là, il y a des manquements disciplinaires qui sont émis, on les laisse sur la tablette, puis on attend qu'ils soient hors délai pour dire, ah, ben là, finalement, on peut plus le traiter, il est trop tard, on l'abandonne. Fait que toute la notion à conséquence, c'est ça qui vient faire en sorte, à un moment donné, que les agents, ben, ils en font plus de manquement disciplinaire parce que ça donne rien, parce qu'ils ne seront pas traités, puis il n'y aura pas de conséquences pour les personnes incarcérées. Il n'y aura pas de sanctions aux personnes incarcérées. Il n'y aura pas de poursuites, exemple, s'ils brisent leur fenêtre parce que là, le DPCP a de la misère à trouver c'est qui, puis à prouver. Fait qu'à un moment donné, ben, on devient désabusé comme agent dans ce contexte-là, dans le contexte de ne pas se sentir supporté par ses supérieurs.
C'est dur à... C'est dur juste d'avoir une conscience puis de se dire c'est pas une priorité pour le gouvernement ou c'est vraiment quelque chose qu'ils sont plus capables de colmater comme problématique. Ou tu sais, on voit un Simon-Jolin Barrette qui est super, super, super impliqué au provincial, en justice, au fédéral. On entend un peu moins parler. C'est-tu quelque chose qui se répercute à travers le Canada? Il y a tellement de questions. Puis on se dit, Ben, c'est un peu un genre de... Tu sais, Yannick, je veux dire, c'est un engrenage, là. Dans les prisons, il y a un effet sur la justice. Sur la justice, il y a un effet dans nos rues. Dans nos rues, il y a un effet sur la police. L'effet avec la police, l'effet avec les citoyens. Il y a... Mais en même temps, chacun des ministères, on pourrait dire la même chose, sauf que c'est tout qui est un peu en décrépitude. Puis tout le monde doit se fâcher ou parler plus fort, ou parler avec les médias pour nécessairement avoir le genre de plaidoyer citoyen qui les suive en arrière. C'est d'une tristesse, non, Mathieu?
Ben, ce qui arrive, c'est que le système carcéral, hein, c'est pas sexy politiquement pour faire gagner les élections ou avoir des votes, d'investir dans des prisons. Mais souvent, ce qu'on voit pas, c'est que d'investir dans des prisons, c'est la sécurité de la population environnante de la prison, c'est la sécurité du système de justice, parce que bien qu'on fasse pas partie de la justice, qu'on soit dans le ministère de la Sécurité publique, ben on est le bout final de la justice souvent. C'est des gens qui ont été jugés trop dangereux pour être dans cette société en attente de leur procès. Ce sont des gens qui ont été jugés soit des multirécidivistes qui doivent être à l'intérieur des murs pour payer leur dette à la société, pour protéger la société. Mais j'ai rarement vu un politicien nous dire « c'est important d'investir dans les prisons ». C'est ça, c'est pas nécessairement vendeur sur le plan politique. Fait que oui, c'est triste de voir qu'on ne s'occupe pas davantage des agents correctionnels, davantage des établissements de détention, alors que ça finira pas demain. Il va toujours en avoir parce que de la criminalité, il y en a, des gangs de rue, il y en a de plus en plus. De la violence dans nos rues, on la voit, puis elle s'en va ensuite dans nos établissements de détention parce que les gens qui sont arrêtés par les policiers, les gangs de rue, les groupes criminalisés, ben, quand ils sont à l'intérieur des murs, ils poursuivent leur trafic.
Mathieu, je te souhaite de passer un joyeux temps des fêtes à toi et ta gang, puis ben, on se dit en 2025, quelque chose qui me dit qu'on va encore se parler en 2025 des mêmes problèmes, probablement.
J'en doute pas. Merci.
Salut. Bye-bye. Mathieu Lavoie, c'est l'excellent président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Rien ne va plus dans nos centres de détention pour ce qui est du personnel. Personnel qui est dur à garder quand ils n'ont pas des bonnes conditions de travail, on va se le dire. Là, ils travaillent avec une population qui peut être extrêmement agressive. Mm-hmm. On parlait des Arab Power, mais toutes les autres gangs de rue qui sont à l'intérieur de ces murs-là. C'est de l'hypervigilance constante. Tu viens de faire un corps de travail de 8 heures, de 12 heures, puis on te demande de rester encore plus là-dedans, ben quand tu es en hypervigilance, faut pas que tu baisses la garde. Parce que si tu baisses la garde parce que tu es fatigué, ben ça se peut qu'à un moment donné, il y en a un qui passe en arrêt d'auto et qui te poinçonne directement dans le dos. T'as-tu vu les armes que les gars se fabriquent à l'intérieur des murs, Pascal?
Je me demande encore comment on réussit, Yannick, à en faire des aussi. T'sais, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, de me faire dire que l'utilisation d'un crayon de plomb pour perforer dans la gorge, c'est déjà arrivé, tu sais, gardien de sécurité.
Ouais.
Mais là, c'est parce que, je veux dire, c'est des armes... Je trouve que c'est des armes de calibre différentes qu'un crayon de plomb qui a été imaginé comme étant un perforateur.
Ben, Mathieu nous a dit qu'il y a déjà un détenu qui s'est fait livrer de la pizza par drone dans un centre de détention.
Je crois, Mathieu, mais j'ai envie d'avoir un doute, là. Comprends-tu, une boîte de pizza?
T'imagines-tu la tête des agents carcéraux?
Voyons, une boîte de pizza dans la fenêtre.
Pizza normandin.
Tu peux recevoir de la visite. Non, mais tu sais, normandin, ils doivent dire, c'est pour les agents. Puis tu sais, mon dernier commentaire par rapport à ça, c'est ça va être très difficile de recruter. Parce qu'on commence à parler tellement négativement de ces conditions-là pour certains des métiers qui sont cruciaux dans notre société, que ce soit en santé, que ce soit... Yannick, tu te mettrais-tu en danger, toi, quotidiennement comme ça, à côtoyer du monde qui vont se rappeler de ta face? Ça me fait tout le temps penser à toute une émeute dans la prison, tu sais, de PAG, là.
Hey, le screw!
Hey! Me rappeler de ta face, puis me rappeler de ton adresse, je vais me rappeler de ta femme, puis tu vas voir ce qui va... Tu sais, c'est... Là, c'était un peu une caricature dans ce temps-là, parce qu'il y avait un certain respect, certains qui étaient là. Il y en a plus.
Ces gens-là, c'est des super-héros. Midi 57, on fait une courte pause et on vient.
Marceau le midi. Arrête pas de dire que ses boss, c'est les auditeurs. Pourriez-vous y demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie. Marceau le midi.
13h05, c'est moins 7 degrés sur Québec pour aujourd'hui. On a atteint le maximum. Pour ce soir, c'est nuageux. Un 2 cm annoncé. Des rafales aussi à 50 km/h. Des températures stables à près de moins 7 degrés. Demain mardi, de la neige entre 2 et 4 cm. En soirée, la neige ou de la pluie, minimum de 0. Mercredi, de la pluie, maximum de 9. Et dans la nuit, de mercredi à jeudi, on nous annonce beaucoup de pluie. Donc, il faudra faire... Si vous avez des abris tempo, on va enlever la neige un peu avant que la pluie arrive. Parce que ça va être extrêmement lourd, les amis, pour ce qui est de la météo dans les prochaines heures.
Ça va être glissant aussi. Oui. Les crampons, là, c'est pas juste pour les personnes âgées.
Pascal, Hydro-Québec.
Oui, il y a quelque chose qui est venu à mes oreilles qui me fascine. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, nous autres, là, au commun des mortels. Tu sais, quand il y a une panne électrique, ces choses étant. On espère que ça ne réarrive pas dans le temps des fêtes comme on a vécu il y a 2 ans et qu'on perde absolument toute la nourriture qu'on avait préparée pour la visite. Cependant, ouais. Quand ça arrive pour des commerces, comme un genre de garage où on prend des réservations d'avance puis que les journées sont pleines de réservations pour une clientèle, puis en même temps, on fait notre chiffre d'affaires avant le temps des fêtes, c'est particulier. Hydro-Québec a avisé, entre autres, un garage du secteur de Le Bourgneuf, OK, dans les derniers jours, qu'il y aura une coupure de courant de 9h à 14h. Pas une histoire d'une demi-heure. 9h à 14h pour soit mercredi ou vendredi. On n'est pas sûr. Mais on demande de confirmer la journée du côté du garage parce qu'il faut déplacer les rendez-vous des clients. La réponse à ça, on ne sait pas la journée, mais vous serez avisé si les travaux sont annulés ou reportés okay. Au vendredi. Tu sais, c'est particulier, là. On s'entend, pour eux, ça représente une perte d'environ 7 000 pour une demi-journée d'annulation.
Ouais.
Et ça, c'est s'ils sont capables d'annuler aussi en temps et lieu puis prévenir les clients.
Mais c'est pas ce que je ferais. Si j'avais un garage comme ça, c'est une génératrice, ça peut-tu aider? T'en vas te chercher une génératrice, tu remplis ça d'essence. Puis...
T'es-tu capable de faire rouler ton garage au complet là-dessus?
Très c'est ça bonne question. Con. Faudrait c'est demander à des gens intelligents comme David Chabot là, de calculer tout ça. Là, notre expert en, en géopolitique.
Géopatinage.
Ouais, ça c'était pendant la pause.
Ouais, c'est ça.
On n'y reviendra pas. David, salut.
Ouais, salut, ça va.
Très content de te voir. Et en fin de semaine, ça a brassé dans le secteur de la Syrie. Bachar al-Assad qui s'est fait tasser de là, puis s'est sauvé par avion et ses destinations. Moscou. Donc, à Moscou, on a accueilli Bachar al-Assad. Mais là, qui dirige la Syrie actuellement?
Bien, c'est drôle parce que là, premièrement, c'était comme un peu trouver Carmen Sandiego pendant un certain moment là, parce qu'on savait pas où s'en allait Assad.
Il n'y avait pas grand choix. Il y avait la Corée du Nord puis la Russie.
Oui, oui, effectivement. Sauf qu'il y a bien des gens qui pensaient qu'il s'était fait clencher directement dans la capitale. T'sais. Puis là, finalement, il réapparaît à Moscou, ce qui est la chose la plus crédible. Là,
quand même assez fascinant qu'il ait réussi à traverser. Un peu moins fascinant et saugrenu qu'il soit rendu du côté de Vladimir Poutine. Mais le fait, effectivement, qu'il ne soit pas décédé, moi, ça me surprend. Ouais. Là, c'est phénoménal.
Mais ça, c'est stratégique. Hein, parce que, excusez-moi, j'étais un peu enrhumé. Mais je vous rassure, à la maison, c'est pas dangereux à travers les ondes FM. mais toi, Marceau, on se touche pas.
Parce que moi...
Ben écoute, je sais pas, là, mais...
Pas de grippe, s'il te plaît, avant les fêtes.
Restons
c'est ce qu'il 17. Avait fait avec Kadhafi. Il avait retrouvé Kadhafi dans la ville, il l'avait sorti d'un tunnel, puis il l'avait massacré.
Oui, puis tu sais, on se souvient de Saddam Hussein aussi, là, que lui...
Saddam Hussein avait été pendu.
Ouais, c'est ça, mais il était caché dans un genre de demi-sous-sol.
Genre de shelter.
Ouais, pas chauffé, pas éclairé, là, tu sais.
Ouais.
Puis ça, dans le fond, le pourquoi qu'ils l'ont pas clenché à Assad, selon moi, c'est que tu crées un martyr avec ça. Puis là, ben, tu prends un pays qui est complètement défait, là, je parle de la Syrie. Puis le boss en ce moment, apparemment, c'est Abu Mohammed al-Julani. C'est un gars que je connais pas personnellement, on se comprend. Mais ça semble être une espèce d'unificateur de tous les fronts rebelles, si tu veux, dans le pays. Puis
c'est
ça
un ancien d'Al-Qaïda?
Oui, notamment. Il était proche de Daesh, là, le ISIS, puis tout ça. Donc là... Il se positionne comme un genre de leader modéré. Là. Je fais des air quotes pour les gens à la maison parce que c'est pas tout le temps modéré ses positions. Sauf que tu vois qu'il veut former un vrai gouvernement ou en tout cas former un vrai leadership qui va être comme rassembleur puis qui va faire que le pays va arrêter. T'sais, il veut pas faire une Somalie, mettons, avec la Syrie. Bien que le pays, ça fait longtemps que ça va pas très bien. Là.
Les Assad sont là depuis fin des années 70. Le père qui était là pendant quelques décennies, qui avait élevé son premier fils pour être le futur dictateur de la Syrie. Mm-hmm. Puis finalement, tu avais Bachar al-Assad qui, lui, qui a fait sa médecine en Syrie, qui est allé pratiquer à Londres, qui s'est fait dire « faudrait bien que tu reviennes en Syrie parce que ton frère est mort dans un accident d'auto ». Fait qu'on lui a comme fait l'académie du prochain débile qui allait prendre place très rapidement.
Le petit dictateur 101, tu sais.
Oui, puis ils ont changé pour être le président de la Syrie, tu n'avais pas le droit d'avoir moins de 40 ans. Puis comme Assad était très jeune, 34 de mémoire, là, ben on avait abaissé l'âge pour qu'il puisse finalement prendre le pouvoir. C'est une belle dictature.
Là. Écoute, je t'ai pas allé jusque-là dans ma lecture, mais honnêtement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois que c'était comme un mauvais dictateur. Puis c'est un peu ironique ce que je te dis là parce que, bon, il a pas été chanceux, il y a eu le printemps arabe. Là, dans 2011 puis 2012, ça a brassé pas mal. Puis là, ça a parti en guerre civile à partir de 2013. Puis c'est une guerre civile active depuis ce temps-là. Fait que là, en ce moment, il y avait plus de structure de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent pourquoi le pays s'est effondré, ou en tout cas le gouvernement s'est effondré aussi rapidement que ça, parce que ça fait près de 2 semaines là, que ça recommençait à se battre pour vrai. Mais finalement, c'est parce que tu as t'as plus d'armée, les soldats sont démotivés, ils sont pas payés, tu sais, ça finit qu'il y en avait plus de structure, c'était sur papier, ouais. Mettons, tu sais, c'était l'Allemagne de 1945 quand Hitler, dans son bunker, il disait on va attaquer là, puis il y avait personne.
Mais c'était 500 000 personnes qui avaient été, excuse-moi, Pascal, c'était 500 000 personnes qui avaient été tuées ouais. par Bachar al-Assad, puis il avait utilisé des produits chimiques contre son propre peuple. Ouais.
La fameuse ligne dans le sable de Obama. Puis finalement, ça n'a pas été... Tu te souviens-tu de l'histoire?
Oui.
Là, tu sais, il a utilisé le chimique. Puis Obama avait dit comme deux semaines avant, ça, c'est la ligne dans le sable. Finalement, il l'a fait, puis c'est rien passé. Puis là, c'est un des moments où ce que Vladimir Poutine a pris comme un genre de leadership international parce qu'il a envoyé un bateau spécialisé dans le désamorçage là, des produits chimiques au large de la Syrie. Puis là, finalement, il a pris le contrôle de la situation. Puis Obama a eu l'air un peu cocu là-dedans, tu sais, parce qu'il dit tu le feras pas. Puis il l'a fait, puis rien fait. Bon.
Pascal?
C'est un peu fascinant aussi que ce genre de leader-là, parce qu'il en restait un, là, Bachar al-Assad, au sein de la Syrie, a demandé une guerre civile à son propre peuple pour ensuite fuir. Tu sais, une des questions qu'on se posait en début d'émission, c'est est-ce un geste lâche? Par définition, moi, je répondrais oui, pour après fuir, puis qu'il n'y ait rien de plus qui se soit passé, ouais. mis à part un peuple déchiré, puis un peuple qui s'est meurtri là, entre lui. Là.
Ouais, ben en fait, il a pas demandé la guerre civile, là. Il se l'est fait un peu imposer, mais il a pas été capable de la mater de la bonne façon.
Mais parce tu que... comprends dans le sens où c'est pas une c'est pas un exercice qu'on a dit à son peuple de faire, mais par non. ses gestes, ouais. par son leadership, il y avait quand même quelque chose à gagner au sein de ces déchirures-là auprès de sa population.
Ben, c'est sûr que diviser pour mieux régner. Puis les dictateurs du Moyen-Orient, ça a longtemps été un brand qui a bien fonctionné. Parce qu'on parlait tantôt des autres du secteur, là, Saddam Hussein notamment, c'est un bon exemple. T'sais. Puis c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, l'utilisation mettons, des armes chimiques en Irak contre les Kurdes, c'était n'importe quoi. Sauf ouais. que ça finit que tu te dis. Ben, puis là, ça, c'est une question philosophique, en fait. Puis je serais curieux de vous entendre là-dessus. C'est-tu mieux un dictateur qui garde le contrôle puis qui enclenche juste une minorité? Ou une guerre civile, où la majorité se fait tuer ou... Tu comprends? C'est très, excuse-moi, utilitariste comme point de vue, tu sais.
En Libye, en tuant la tête du serpent, on a créé d'autres serpents qui étaient aussi pires que le président libyen. Puis en Irak, ça a fait la même maudite affaire.
Plus,
les chefs de clans sont sortis puis ils ont fait pire que ce que Saddam Hussein faisait pour son propre pays.
Ouais, tu sais, il y a eu beaucoup de vengeance. Puis après ça, on a formé... Justement, l'ISIS s'est formé en Irak après, dans le fond, l'écroulement là, du parti Ba'ath. Fait que là... La question est tout le temps est intéressante pareil parce que une vie c'est on va reprendre un slogan là, une vie c'est une vie de trop là, ouais. mais en même temps tu sais est-ce que t'es mieux de laisser un dictateur en place qui contrôle la région où c'est stable ou au contraire tu dis mais on va encourager le peuple à se soulever puis là c'est tout le temps l'histoire de qui fournit les armes à qui puis qui a le leadership là-dedans.
Parce que le futur président syrien, on ne sait pas comment il va interpréter le Coran. Là.
Non.
C'est-tu aussi pire que ce que Bachar al-Assad faisait ou encore l'autre qui va arriver, qui va être un extrémiste du Coran? Là, de ce que je comprends, c'est qu'il veut que les filles continuent d'aller à l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, on ne sait pas.
Oui, puis c'est un point intéressant, ça, parce que l'utilisation de la religion pour la gouvernance, là, ben, t'sais, dans cette région-là, jadis naguère, là, à part l'Iran, c'était quand même, je veux pas dire laïque, là, parce que c'est tout le temps des gouvernements religieux, mais la religion ne prenait pas tant de place que ça, par exemple en Irak, en Syrie, puis en Libye, tu sais, puis en Égypte.
Les filles étaient sur la plage en Afghanistan.
Ouais. Mm-hmm.
Il est en maillot, là, maillot deux pièces.
Oui, oui. Puis longtemps, ça a été comme ça. Là. Puis même en Iran, avant la révolte là, du chat et toute la patente, là, c'était la réalité aussi au Moyen-Orient. Fait que, c'était des nations, des populations qui étaient quand même relativement libres et démocratiques. Pas démocratiques, c'est pas le bon mot, mais mettons, tu avais une vie relativement normale par rapport aux standards occidentaux. Puis à chaque fois qu'il y a un dictateur qui se fait renverser, bien finalement, hop, les conditions de vie moyennes du Libyen moyen ou de l'Afghan moyen ont vraiment rapidement détérioré, tu sais. Puis là, ben, c'est un gros dilemme quand même pour l'Occident, parce que si on regarde l'Afghanistan puis l'Irak, on est arrivé là pour faire du nation building, tu sais. On a dit, nous autres, notre modèle, notre brand, notre franchise, ça marche, là, fait qu'on va implanter des démocraties partout. Puis finalement, ben, tu te rends compte que le peuple veut pas nécessairement ça ou ils savent pas exactement par quel bout de prendre ça. Fait que ça finit que t'es pas capable, à part si tu gardes des centaines de milliers de soldats sur place, de mettre en place l'État à tes yeux, à toi, parce que c'est des gens qui réfléchissent différemment. C'est très tribal, puis c'est très...
Souvent, tu te demandes, tu sais, parce qu'avec nos yeux occidentaux, on se demande, ben, ouais, ben en fait, on conclut que ça n'a pas de sens comment ça se passe dans le monde. à l'international, la manière dont ils gèrent leur peuple et tout. Mais pour eux, c'est une culture bien implantée, c'est une façon de vivre, ça a été imprégné de leur enfance, c'est toujours ce qu'ils ont vécu. Fait que tu es après de te demander, bon, c'est qui a la meilleure façon de vivre? À nos yeux, avec les droits humains et autres, c'est clair, on n'a pas besoin de se poser 150 questions. À leurs yeux, c'est la leur.
Non, c'est ça. C'est des enfants qui ont été endoctrinés dans la religion, c'est des enfants qui ont été endoctrinés dans la haine de l'Occident, les impurs. Fait que d'essayer de, tu sais, t'enlèves la tête du serpent, mais les autres qui grandissent à 20 ans, 30 ans, ont encore eu l'éducation religieuse. Donc, c'est pas les Américains qui vont leur faire changer d'idée.
Oui, puis c'est pas juste religieux. C'est tout le temps la même affaire. Là, quand tu interviens et tu utilises la violence là, pour essayer de stabiliser les choses, ben, tu vas créer des victimes qui, elles-mêmes, vont faire un réseau dans leur famille, qui vont créer du ressentiment envers l'Occident. T'sais.
La guerre israélo-palestinienne est le meilleur exemple dans ce cas-ci.
C'est ça. C'est une roue qui n'arrête pas de tourner.
Là, David, Poutine qui prend Bachar al-Assad pour en faire un réfugié de guerre. Là.
Ouais. Puis ça, c'est pour des raisons humanitaires.
C'est tellement ironique.
Est-ce que. Je dis ça comme ça, c'est jamais arrivé. Mais mettons, ça se peut-tu qu'en Russie, ils tombent d'une galerie, puis on n'entend plus parler?
Ou il veut savoir s'ils peuvent se chicaner ou encore il peut avoir une élimination.
Ouais, ça fait défenestrer, là, parce que ça, c'est des accidents qui arrivent souvent en Russie. Hein. Tu tombes d'une fenêtre, là, c'est plate, mais regarde, les fenêtres sont moins stables là-bas, si tu veux, je te dis. Mais est-ce qu'il va... Je pense pas, parce que, tu sais, dans le fond, ça reste un réfugié de prestige à avoir dans ton pays, tu sais. Moi, je pense qu'il va le sortir de temps en temps, Assad. Il va être en protection pis tout, mais je pense que Poutine peut s'en servir parce que son but ouvert là, en ce moment de Vladimir Poutine, c'est de créer une espèce d'alliance de pays anti-occidentaux, anti-OTAN.
Pis... Et Bachar al-Assad a encore des alliés en termes de vision. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être un nouveau partnership extraordinaire dont on voulait tous voir le jour.
Ouais, c'est quand même un gars qui pourrait être accusé de crime de guerre. Là.
Ah, assurément, mais ça, tu sais, je veux dire... Ça, c'est une autre affaire. La Cour pénale internationale puis toutes les conventions de Genève, finalement, ça devient optionnel. Ça finit que quand t'es dans le mauvais bord où t'as pas assez de puissance, ben là, tu te fais striker, là, comme tout ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, oui. Mais quand t'es Vladimir Poutine, quand t'es même les États-Unis qui se font plomber ou Israël qui se fait accuser de génocide en ce moment, ben...
Puis pourrais-tu, mettons qu'il y a un nouveau gouvernement syrien qui se forme, il pourrait-tu avoir un échange entre la Syrie puis l'URSS? Les Russes?
Hey, les Beatles sont séparés en
passant. Oui. Pour il pourrait-tu avoir un échange? C'est-à-dire, tu sais, est-ce que la Russie prend quelque chose de la Syrie versus la Syrie qui prend quelque chose de la Russie? Y a-tu un échange de pétrole? Y a-tu les ressources?
En Syrie, il n'y a pas grand-chose. Là. Je disais là-dessus, justement, il y a un peu de pétrole, il y a des mines de potassium, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est des ressources assez limitées. Le pays était riche et fort parce qu'il était géostratégiquement bien situé. Puis il y avait des alliances qui aidaient, dans le fond, l'URSS. Justement, dans le temps, il était très proche de l'URSS. Là, maintenant...
C'est dans le temps que les Beatles étaient là.
Exact. Okay. Ça chantait Yesterday dans ce temps-là. Okay. On est tous en même place, ça va. Fait que finalement, tout ça pour dire que maintenant, là, t'sais, le seul levier géostratégique intéressant pour la Syrie, c'est la proximité à la mer puis le fait que tu es entre l'Iran et Israël. C'est pas mal juste ça, finalement. Là. Fait que là, comment ça va se développer? Moi, je pense que Poutine veut vraiment s'impliquer dans cette région-là parce qu'il y a à la fois du prestige puis un levier géostratégique pour essayer de renverser la puissance américaine. Mais il y a beaucoup en ce moment de vacuum parce que les États-Unis n'assument pas vraiment leur leadership. Puis quand ils le font, c'est en disant à l'Ukraine, mettons, envoie des missiles loin, puis là, il fait juste comme envenimer le conflit. Mais jadis, naguère, là, tu sais, les États-Unis, quand ils disaient c'est A, ben c'était A, puis ça se calmait. Tu sais, là, finalement, il n'y a plus ce levier-là. Puis là, ça crée une espèce de monde multiparti ou multipolaire, là, où tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Puis ça fait des crises politiques un peu partout aussi, tu sais.
Mais pourrait-il avoir un trade entre la Russie puis la Syrie? Si jamais la Syrie donne à la Russie ce que la Russie voudrait, on pourrait-tu, je sais pas moi, se faire suicider Bachar al-Assad?
Peut-être, là, tu sais, je t'échange, mettons, 3 missiles contre une carte de Wayne Gretzky recrue, là, genre.
Mais on veut-tu vraiment ça?
Tu ferais ça?
Ben là, je penserais, en tout cas.
On veut-tu vraiment ça? Ça va donner un certain pouvoir à Vladimir Poutine.
Ben
oui, oui, ben, de non, savoir qu'il est capable d'aller chercher certaines affaires contre une négociation, c'est ce que Vladimir Poutine souhaite depuis maintenant 2 ans facilement, puis souhaitait bien auparavant. Mais ces alliances-là qu'il a renforcées à travers le monde, ce n'est que son esprit de négociation et la recherche de son pouvoir. Il s'est auto-proclamé l'homme le plus beau au monde. Là. Oubliez pas, là, c'est pas une farce.
On fait régulièrement ça chaque matin.
À toi, ça, devant la glace?
Oui, oui.
D'accord.
Mais Pascal, mettons, là, c'est un bon parti, Vladimir. Là.
Ça va être correct, ça ne me dérange pas.
Non, mais on veut jaser. Il fait du judo, puis c'est un homme quand même bien en moyenne.
Tu aimerais que j'ai un grand chapeau de poil?
Quand il joue au hockey, il est capable de faire 15 buts avec des athlètes professionnels.
Imagine ses performances. En termes de tout ce que tu souhaites.
Ah, il va scorer.
Hein, j'ai hâte, là.
David Chabot,
hey, merci.
C'était un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Yes.
Pascal, c'est le combat des tounes.
Oui.
On a une toune à vous faire jouer dans les prochaines secondes. C'est la toune de Green Day, Dilemma, qui est une des préférées sur les ondes de boulevard. Puis j'ai l'autre que je vous présente à l'instant. C'est OK, but this is the last time de The Offspring. On vous fait jouer ça à l'instant. C'est l'ultime combat des tunes présenté par Chaloux chaque jour en semaine. Deux chansons différentes qui s'affrontent jusqu'à la première place. Pour le moment, ben, on vous le dit. Vous pouvez aller donner votre avis sur notre Instagram de Boulevard. Vous choisissez votre tune grâce à vous et à Chaloux. Ben, la compilation des votes couronnera la tune de l'année sur Boulevard. L'autre, c'est celle-là, Green Day Dilemma à l'instant.
L'ultime!
Vous avez des choses à nous dire? 88-971-1021. 88-971-1021, ça fonctionne par texto. Pascal, t'as-tu adapté ta conduite là, à cette température hivernale? Là?
Tu veux dire? Parce qu'en fin de semaine, que je vais trop vite, normalement.
J'en parlais avec. C'est avec Denis qu'on en parlait tantôt, ouais. Ou peut-être avec Audrey, mais les gens n'ont pas encore pris les réflexes de l'hiver.
Avec Denis.
C'est ouais. Puis, oui. Tu sais, sur l'autoroute, là, ça suit derrière toi. Tu te dis, un peu, si moi j'ai un freinage brusque à faire, c'est sûr que tu te ramasses mon passager du barrière.
En fin de semaine, beaucoup de choses à déplorer, très honnêtement, monsieur l'enquêteur. Sur le dessus des voitures, des igloos mobiles, ça n'avait aucun sens. Ça
je plaide coupable.
Je suis tellement tanné de toi, je le sais, puis je le dis pas pour rien.
C'est parce que des fois, l'entrepreneur il est passé dans mon stationnement. Fait que, tu sais, tu comprends que là, si je prends la neige puis je le tire comme sur le côté, l'entrepreneur va être fâché.
C'est ça. Alors, pourquoi pas ensevelir les gens qui te suivent sur la route à ne plus voir dans leur pare-brise avant?
J'habite à Val-Bélair. Est-ce qu'il nous, tout ça dans le
coup? Mais très honnêtement, je t'haïs, tu sais, pour plusieurs raisons. Celle-ci, je l'ajoute. Je t'aime pour d'autres que je n'énumérerai pas aujourd'hui. Et en ce moment, je trouve que ce n'est pas adéquat. Mais chose certaine, Yannick, ça, il y en avait beaucoup. Il y avait aussi beaucoup de...
Parce que le gaz au fond, t'arrives en face de chez vous, tu mets le gaz au fond, puis là, la neige, en part en arrière.
Ben oui, c'est ça, d'en face à l'autre. Il y avait ça, il y avait du monde qui conduisait beaucoup.
C'est Val-Bélair, c'est pas centre-ville de New York.
Beaucoup trop lentement aussi. Ça, c'était pas le fun. Puis il y avait aussi... des gens qui, clairement, ne savent pas que leurs feux arrière sont brûlés. Parce que ça, c'est pas mieux, là. On pense que c'est un clignotant qui est activé ou on sait pas quand est-ce qu'il freine. En hiver, là, c'est encore plus important que vos lumières ne soient pas brûlées.
Oui, puis ça, faut que j'y pense parce que moi, je décélère beaucoup. Moi, j'ai un véhicule manuel.
Ouais.
Fait que je décélère, au lieu de freiner, je décélère, mais mes lumières, quand je décélère, ils n'allument pas en arrière.
Ils n'allument pas, t'as raison.
Puis ça fait une couple de fois que je vois qu'il y en a qui s'approchent un peu trop. Mais bref! On va parler de ce sujet-là peut-être jamais.
Tu vas encore dire que tu ne déneiges pas ton toit.
Exactement. Mmh. On a le plaisir de parler d'un sujet extrêmement positif, c'est-à-dire le grand retour, encore une fois, cette année d'Opération Nez Rouge. Marilyn Vigneault qui est avec nous, qui est directrice générale d'Opération Nez Rouge. Salut Marilyn, très contente de t'accueillir en studio.
Ben, salut à vous deux, je suis très contente d'être là aussi.
Mais oui, sais-tu, t'es directrice générale depuis combien d'années, là?
Ben, ça 20, fait... 30? Non, pas tout à fait.
Non. Elle a commencé jeune.
Oui. Ça fait un an que tu es à la direction générale, mais dans le mouvement Nez Rouge depuis 2016, que ce soit en tant que bénévole ou sur le terrain.
Ça a commencé comment, comme bénévole? C'était sur les routes ou dans la centrale?
C'était sur la route la première fois. Un petit coup de tête, un soir, entre amis, on s'est dit, ben pourquoi pas? On s'est inscrit comme bénévole, puis on est allé faire des raccompagnements. Donc, ça peut se faire sur un coup de tête. Oui, on peut s'inscrire à l'avance, mais ça peut être le soir même.
Avais-tu une petite anecdote croustillante à nous dévoiler ou pas du tout?
Parce que moi, j'ai déjà... Patrick Huard, Opération Nez Rouge, il est tordant.
Ben oui, mais je veux dire, moi, j'ai déjà raccompagné un gars avec une gang d'amis, mais il nous a amenés chez son ex. Fait que son ex était super contente, elle, de se faire réveiller en pleine nuit par son ex complètement chaud qui habitait plus là. Puis que clairement, on a compris qu'il l'avait trompé, il était vraiment de bonne humeur.
Bon. C'est le genre de choses qui arrivent. Hein?
Oui, effectivement, on en entend de toutes les couleurs. Certaines se comptent moins à la radio.
Ben moi, je le dis, il n'y a pas de problème.
Opération Nez Rouge, ça existe depuis plus de 40 ans. C'est M. de Coninck qui avait parti ça dans le temps.
Exactement, en 1984, c'est notre 41e édition cette année.
Ouais.
M. de Coninck était prof de maths et entraîneur de l'équipe Rouge et Or Natation. Puis
la famille de Coninck, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN. Ouais, c'est juste incroyable. Hein? Oui.
La bonté, la bienveillance.
L'intelligence.
Oui, assurément. Puis en somme, il cherchait un moyen de financer son équipe de natation. Puis il avait entendu des stats. Et M. de Coninck et les stats, il a un amour fou pour les stats. Donc,
des fois, il y en est tannant.
Ben non, ça va être attachant.
Ouais, Yannick, je suis en train de penser à quelque chose. En 1933, il y a eu un nageur russe. Hein?
Puis c'est ça, il y avait beaucoup d'accidents, en fait, causés par les facultés affaiblies. Donc, il s'est dit, pourquoi pas raccompagner les gens en toute sécurité, puis ouais. en même temps, amasser des fonds pour l'équipe. Alors, c'est comme ça que c'est né.
Le voyez-vous encore passer chez Opération Nez Rouge, M. Deconin?
Assurément, il est sur notre CA. Il était en centrale pas plus tard que vendredi, la semaine dernière. Donc,
ça implique encore.
Oui, assurément.
Quel homme. Puis là, toi, tu as commencé là en tant que bénévole, puis après ça, tu as eu idée de te lancer dans cette entreprise-là.
En fait, plus précisément, ce qu'il faut savoir, c'est que Nez Rouge est associé sur le terrain à des organismes qui ont un lien avec la jeunesse et le sport amateur.
Okay.
Donc, un peu partout en province, on a une cinquantaine d'organismes. On a des maisons des jeunes, des clubs de natation comme à Québec,
ouais.
Des clubs scouts, des choses comme ça. Donc, ces organismes-là n'ont pas une mission qui est liée à la sécurité routière, mais ils vont déployer Nez Rouge dans leur communauté pour ultimement amasser des fonds. Parce que quand vous faites un don, bien que c'est un service gratuit, Nez Rouge, on peut faire un don,
mm-hmm.
100 % de ce don-là est remis aux organismes en question qui, eux, vont donc financer leur mission okay. liée à la jeunesse.
Et toi, tu étais en lien avec ces organismes-là.
Exactement. J'étais employée là, de ces organismes-là à l'époque.
Là, tu t'es dit, Opération Nez Rouge, ça me tente.
Exactement. Bien, Nez Rouge, ça a un ton festif, c'est non moralisateur. On est aimé de la population. La mission est super le fun aussi. Donc, quand il y a eu une opportunité, bien, j'ai sauté dessus.
Puis, c'est-tu des jobs qui sont à l'année chez Nez Rouge?
On est une dizaine de personnes à la permanence chez Nez Rouge.
Okay. Hey, parce que c'est de l'organisation, là, quand tu regardes ça. Là,
ouais.
C'est jusqu'au 31 décembre. C'est commencé depuis quelques semaines, deux semaines, si je ne me trompe pas déjà. Mais tout ce que tu vois, la manière dont c'est organisé, pour que les bénévoles arrivent, ils ne se cassent pas la tête, puis que ouais. ça roule ma poule, puis que les gens soient accompagnés, puis soient chez eux dans leur lit, au chaud avec un petit verre de trop. C'est du monde, justement, qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'anicroche, là. Pense à ça.
Ouais.
Les assurances là-dedans, les ci, les ça.
Les partenaires.
Ben, parce que c'est vrai que tu as des groupes de bureaux, des fois, qui vont se présenter. À un moment donné, les joueurs du Rouge et Or faisaient des soirées entre joueurs, leurs accompagnateurs. Ils débarquaient eux autres, avaient l'impression que c'était une garde de sécurité complète qui venait de faire une descente.
Il y avait les genoux dans le front pendant qu'ils conduisaient ton char.
Dans une Yaris,
oui, il y a ce genre d'histoire-là qui arrive. OK, donc ça existe depuis plus de 40 ans. Vous êtes en opération. Combien de semaines pour ce qui est des raccompagnements par année?
Bien, bon an, mal an, on débute toujours vers la fin du mois de novembre. Donc là, cette année, on est en opération depuis le 29 novembre et on termine toujours le 31 décembre. C'est notre dernière soirée à chaque année. Puis d'une région à l'autre, ça varie au niveau des dates d'ouverture, mais vous pouvez prendre pour acquis que les vendredis, samedis, on est ouvert.
OK. Vous avez besoin de bénévoles à chaque année, j'imagine?
Oui, c'est pas mal notre cheval de bataille, là, parce que plus on a de gens qui s'impliquent, bien, plus on est efficace sur le terrain,
ouais.
au niveau des temps d'attente et tout ça. Donc oui, les bénévoles sont plus que les bienvenus.
Moi, j'ai été souvent client d'Opération Nez Rouge. Je me suis jamais impliqué comme bénévole, peut-être parce que je suis pas assez responsable. Mais,
je t'ai jamais pogné, par exemple.
Comment ça se passe? Comment?
Je t'ai jamais pogné comme client.
Tu t'en souviens.
Et que j'aurais ri.
Ben oui. Hey, comment ça se passe pour les bénévoles? Est-ce qu'ils restent avec vous à la centrale, puis après ça, ils embarquent dans leur voiture, puis ils vont chez les clients direct?
Bien, en fait, première chose, ils doivent s'inscrire. Donc, soit sur l'application mobile ou sur le site web de Nez Rouge, on va s'inscrire. Super facile. Après ça, bien, la soirée que vous aurez ciblée, vous pouvez être seul ou déjà avec des amis, parce que c'est des équipes de trois qui prennent la route. Mais si vous êtes seul, inquiétez-vous pas. Une fois en centrale, on vous combine avec d'autres personnes.
C'est pourquoi trois? Hein?
C'est une question de sécurité parce qu'on a, évidemment, vous le savez, on ramène le véhicule, Nez Rouge.
Oui.
Donc, on doit premièrement avoir quelqu'un qu'on appelle l'escorte motorisée qui va donc vous suivre en tant que client dans son véhicule. Et les deux autres bénévoles, le chauffeur et le partenaire, sont avec le client dans le véhicule du client. Le partenaire est là à titre de sécurité, évidemment. On a des gens en état d'ébriété et tout, mais je vous rassure, là, ça se passe super bien.
Ben
les
oui.
gens sont festifs. Et le chauffeur qui va donc vous amener du point A au point B. Et puis, tout ça se fait super rondement au niveau des demandes de raccompagnement à Québec là, depuis l'année passée. On peut le faire directement sur l'application mobile. Donc, plus besoin nécessairement d'appeler. C'est toujours
ça.
Possible d'appeler, mais c'est plus obligatoire.
C'est-tu compliqué de les trouver, ces gens-là, d'un bord?
Non. Bien, je vous dirais qu'à l'inverse, quand les gens voient les dossards rouges entrer dans le bar, « Ah, c'était pour moi! »« Ah ouais, OK, c'est quoi ton nom? » Fait qu'il faut valider parce que les gens veulent profiter du transport.
Ouais. Des petites cueillettes puants qui pensent que c'est une bonne façon
exact.
De revenir à la maison sans s'être
exact.
Inscrit.
Mais maintenant, il y a même des textos qui entrent pour dire « Votre accompagnement est arrivé, préparez-vous à sortir.
Okay, » wow, okay.
Donc, le côté techno est quand même là chez Nez Rouge.
OK. Puis, on peut-tu les... Mettons, Pascal est assez festive avec ses amis. Là. J'imagine que dans le temps des fêtes, ça va continuer comme ça. Est-ce qu'elle peut dire « Hey, je m'en vais à telle place vendredi puis j'aimerais avoir un service de raccompagnement à 22 heures. »
On ne peut malheureusement pas réserver. Nez Rouge, c'est un service qui repose justement sur la participation des bénévoles. Donc, ça serait difficile pour nous là, de s'engager comme ça. Ce que je peux conseiller dans un scénario comme ça, bien, c'est évidemment de s'assurer que le service est offert, la date et au lieu que vous voulez l'utiliser. Puis peut-être d'appeler un peu en avance pour justement savoir cette soirée-là, est-ce que c'est achalandé, comment ça se passe. Ça va vous donner un gauge finalement pour caler votre accompagnement.
Parce que c'est comme un last call.
Oui.
Des fois, il y a tellement de gens que si tu souhaites avoir, mettons, ton raccompagnement à 2 heures du matin, appelle à 11 heures, appelle à minuit, demande c'est quoi le temps d'attente, puis tu vas savoir quand le commander. Moi, okay. C'était mon truc, là. Ouais. Puis sinon, bien, écoutez bien, 88-971-101, textez-moi, je vous donne le numéro de cellulaire personnel de Yannick. Quand il n'y a pas de journée d'opération de nez rouge, il va aller vous chercher, il va vous raccompagner. Il a décidé de faire ça cet hiver.
Les entreprises embarquent beaucoup dans les services de raccompagnement. Vous faites des communications en ce genre, d'ailleurs? Là.
Oui, effectivement, on incite les entreprises qui ont leur party de Noël à faire la promotion de nez rouge. La mascotte peut même aller vous visiter pendant le party de Noël. C'est des choses possibles. Puis à l'inverse, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'impliquent bénévolement. Donc, qui vont faire des soirées de team building pour dire, ben gang, on va faire du nez rouge ce soir. Donc ça, c'est super le fun aussi là, à ce niveau-là.
Puis à Centrale, il y a des petits biscuits, puis du café.
Il y a plus que ça.
Chocolat chaud.
Déjeuner, soupe. Oui,
il y a,
souvent,
il y a tout à Centrale. Il y a-tu de la bière?
Il n'y a pas de bière, mais il y a des boissons atypiques, des boissons sans alcool atypiques. Mais oui, vous pouvez casser la croûte en Centrale, tout dépendant. À Québec, en fin de semaine, c'était du Saint-Hubert. On a plein de partenaires. McDo est là cette année pour le café, vous donne des rabais pour un trio déjeuner. Donc, on essaie de chouchouter nos bénévoles. Il y a différents concours aussi qui sont là. Donc, vraiment, c'est une expérience festive. C'est super le fun. On vous invite à le vivre. Puis, je me permets aussi, il y a des gens qui s'empêchent d'être bénévoles parce qu'ils ont peur. Ils se disent, il va falloir que je reste debout jusqu'à 5-6 heures du matin et tout ça. Mais on vous rassure, on vous prend quand vous êtes disponible. Notre rôle, c'est de rendre les routes sécuritaires. On n'enverra assurément pas des bénévoles endormis sur la route. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, de tenter votre chance une première fois pour le vivre, ben, c'est vraiment la manière de l'adopter. Puis notre slogan cette année, c'est une soirée dont vous allez vous rappeler. Donc, c'est pas pour rien, autant pour les bénévoles que les utilisateurs. Okay.
Et est-ce que j'ai besoin d'être avec Pascal puis une autre personne ou je peux arriver à la Centrale, je donne mon nom comme bénévole, j'arrive à la Centrale puis vous me jumelez avec quelqu'un d'autre?
On peut en effet vous jumeler. Vous pouvez arriver soit avec votre équipe de fête ou pas. C'est vraiment là une option qui est disponible.
Il y a des amitiés qui se sont créées. Même, je l'ai vu, moi, de gens proches. Là. Puis, écoute, il y avait tellement de fun. Quand même, ma soirée bénévole, les autres, c'était un party parce qu'à la fin de Opération Nez Rouge, pour remercier, il y a comme une soirée.
Ouais.
Puis, c'était quelqu'un initialement, pour ne pas le nommer, c'était mon père. Quand je faisais du bénévolat au secondaire...
T'es devenu ami avec ton père ce soir-là?
Non, il était écœuré de venir nous conduire, puis de partir, puis de nous reconduire, puis parce qu'on faisait du bénévolat plusieurs soirs. On avait eu du fun, nous autres, Nez Rouge, fait que ça occupait nos vacances. Mais c'est passé ça, c'était aux petites heures. Puis il avait dit, ben tant qu'à ça, moi, je vais venir, puis je me lève des équipes.
Mm-hmm.
Puis ils sont encore une gang qui se parle, puis qui vont.
Ah, c'est cool,
imagines-tu?
Ben oui.
Fait que, tu sais, si t'es toute une personne seule, puis toi, le temps des fêtes, c'est tough, puis tu sais pas quoi faire, puis t'aimerais peut-être ça socialiser et autres. Vas-y, prends une chance. Premièrement, tu vas avoir du fun. Deuxièmement, tu sais jamais ce qui peut arriver. T'sais, vous avez eu des mariages dans de bénévoles.
Marilyn Vigneault, est-ce qu'il y a des soirées où vous avez le plus de misère à trouver des bénévoles?
Je vous dirais que le week-end qui s'en vient, celui du 13-14, historiquement, c'est notre plus gros de l'année, simplement parce qu'il y a beaucoup de parties de Noël.
Ouais.
Donc, vraiment, de cibler ce week-end-là pour être bénévole, ça peut être une bonne stratégie. Évidemment, on a toujours besoin, mais c'est vraiment notre plus gros week-end qui s'en vient. Okay.
Puis le 24 au soir, 25 au soir, 31 au soir, est-ce que vous avez tous vos bénévoles ou ben des fois vous dites faut, ça en prendrait peut-être plus?
Ça en prend toujours plus. Vraiment, ça nous permet simplement d'être plus efficaces. Cette année à Québec, on sera vraiment ouvert du 24 au 31 sans arrêt, là, même les lundis, mardis soirs.
Ouais.
Donc, c'est des soirées qui sont... vous savez, dans le temps des fêtes, on perd un peu la notion du temps. On ne sait plus quel jour on est. Il y a des parties de famille et tout ça. Fait que Nez Rouge devient une solution supplémentaire dans une période achalandée de l'année. Mais on est là aussi pour rappeler de prévoir ces déplacements, que ce soit avec un conducteur désigné, un taxi, un ami, dormir sur place.
C'est à Québec, il y en a plus.
Comment?
CAA Québec.
Oui, oui. Pascal a un objectif pendant le temps des fêtes, c'est-à-dire de caler CAA Québec pour se faire remorquer et embarquer avec le remorqueur jusqu'à
c'est une vraie option que CAA.
Oui, ouais, Marilyn, je te laisse deviner qui voulait humilier son partenaire ou sa partenaire de radio.
Et je veux qu'elle filme ça puis qu'elle fasse une entrevue avec le remorqueur en plus. Mais pour ce qui est d'opération Nez Rouge, bon, on est en plein cœur des activités actuellement. Ça fait plus de 40 ans que vous existez. Vous avez fait combien de raccompagnements à peu près? Est-ce que vous avez été capable de lister, j'imagine qu'on est quoi, proche du 4000 peut-être?
Cette année-là, les deux premiers week-ends se sont écoulés et pour la province de Québec, on est à un total de 5845 raccompagnements,
okay.
Ce qui représente un gros 26% d'augmentation comparé à l'année passée. Puis si je regarde à Québec précisément...
Ça, c'est provincial.
Provincial, mais voilà. À Québec, l'opération Nez Rouge Québec-Lévis, ils ont fait 639 raccompagnements et ça, c'est 41% d'augmentation comparé à l'année dernière.
OK, fait que c'est de plus en plus en demande.
Oui, exactement.
OK. Puis comment ça coûte, Opération Nez Rouge?
Bien, c'est gratuit, 100 % gratuit. Donc, on vous invite là, à ne pas hésiter. Ce n'est pas un enjeu. Oui, vous pouvez faire un don. Il y a des options pour faire un don, évidemment, en argent. Mais maintenant, on prend les dons en ligne aussi. C'est vraiment à la discrétion de chacun. Là, pour vous donner une idée, la moyenne des dons tourne autour du 25 $ là, provincialement parlant. Mais encore une fois, c'est à la discrétion de chacun en fonction de la distance et de vos moyens.
Puis, est-ce que les chauffeurs d'Opération Nez Rouge ont un genre d'interac à l'intérieur?
À Québec, si ma mémoire est bonne, je ne crois pas. Ça dépend d'une région à l'autre. Mais l'option de paiement en ligne est quand même disponible. Là. Vous recevez un texto en tant que client, vous cliquez là-dessus, puis vous pouvez aller faire un don.
Ah, c'est parfait. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre?
Le 1-866 Desjardins ou l'application mobile.
Il faut s'en souvenir, Desjardins avec un S.
Voilà.
Merci beaucoup, Marilyn Vigneault. Ça a été un plaisir de te recevoir. Elle est directrice générale d'Opération Nez Rouge. À tous, bonne fête. Puis, comme vous, elle vous l'a dit, ça coûte gratis. Ça prend un petit pourboire, bien entendu, si vous pouvez le faire. Puis, ça fournit énormément d'organisations sportive à la grandeur de la province. Donc, c'est un beau geste. Merci beaucoup d'être partenaire encore une fois cette année.
Merci à vous deux.
C'est le fun. 13h39, on revient. Boulevard 102.1. Marceau.